Courbons la tête maintenant pour un instant de prière. Très bienveillant Père, nous te remercions ce matin du privilège que nous avons d'être ici dans cette salle, nous préparant à affronter le dénouement de cette journée. Seulement, nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais nous savons qui détient cette journée. Aussi, nous prions celui qui détient aujourd'hui, demain et toute l'éternité, de nous bénir aujourd'hui alors que nous sommes assemblés en son nom, dans le but de mieux savoir comment vivre pour le servir. C'est là toute notre intention, Père. Dieu qui connaît nos cœurs sait que c'est la vérité. Nous nous remettons à toi avec la portion de cette journée qui reste à venir à ton service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En voici une autre. Bonjour à mon auditoire visible et à mon auditoire invisible qui est en ligne avec nous ce matin d'un bout à l'autre du pays. C'est un grand privilège pour moi de venir ici et de parler de ce sujet vital ce matin. Pour l'auditoire visible, vraiment, c'est un peu déroutant parce qu'il y a juste devant moi, il y a des rideaux, alors il faut que je parle à ma droite et à ma gauche. Et à l'auditoire invisible, je dirais qu'il y a la salle à ma droite et le gymnase à ma gauche. Et moi, je suis sur la plateforme avec les rideaux ouverts entre les deux, c'est-à-dire à ma droite et à ma gauche. Et nous avons un surplus de gens ce matin. Il y en a dans la salle et dans le gymnase et aussi à l'église là-bas, à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn. Et aux endroits supplémentaires, c'est par le système téléphonique que nous sommes reliés aux autres endroits. Nous avons passé des moments extraordinaires dans le Seigneur, et nous sommes dans une grande attente pour la réunion de ce matin. Et maintenant, comme la réunion de ce soir marquera la fin de cette campagne de 4 jours, eh bien certainement que nous invitons tous ceux qui le pourront à y venir. Nous avons confiance que le Seigneur couronnera le tout d'une façon grandiose ce soir en faisant quelque chose de très extraordinaire, au point de guérir tous les malades et de faire les choses glorieuses qu'il fait généralement. Nous nous attendons à de grandes choses pour ce soir. Le public est cordialement invité, tout le monde, toutes les églises de toutes les dénominations. Vous n'avez même pas besoin d'être chrétien. Certainement que nous invitons les pécheurs à entrer, à s'asseoir parmi nous. Et nous faisons vraiment de notre mieux pour leur enseigner la voie du Seigneur, afin que nous y trouvions la vie. Bon, j'espère que l'auditoire ne sera pas tendu. Et je mets ma confiance en Dieu que moi-même, je ne serai pas tendu. Car j'ai passé une nuit très pénible, beaucoup de tensions nerveuses. En effet, je suis conscient que les choses que je dirai ce matin me seront imputées au jour du jugement. Aussi, je n'ai pas pu dormir. Et je sais que si je ne le dis pas, ce me sera imputé au jour du jugement. Alors, voilà qui rend la chose difficile. Ça ne s'explique pas. Et maintenant, ce matin, nous devons examiner ce grand sujet, le mariage et le divorce. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de la porter à l'école du dimanche, c'est pour que nous puissions en parler et prendre tout notre temps au lieu d'apporter une prédication là-dessus. C'est un enseignement tiré de l'Écriture. Et j'aimerais dire que si un prédicateur ou des prédicateurs quelque part, si jamais cette bande leur tombait entre les mains, au cas où nous laisserions sortir cette bande, je ne sais pas ce que l'Église décidera de faire. Je demande à Frère Fred d'aller voir le conseil de l'Église avant de laisser sortir cette bande. Quant à ceux d'entre vous d'un bout à l'autre du pays qui ont des magnétophones, s'il vous plaît, ne laissez pas sortir la bande avant d'avoir eu des instructions de Frère Sothman là-dessus. Bon, et si on devait la laisser sortir et qu'un de mes frères dans le ministère ou un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que je dis sur ce sujet, j'espère que vous ne critiquerez pas cela. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit en tant que ministre, en tant que berger. Et je respecte ce que vous croyez. Il y a deux grandes écoles sur le sujet. Et s'il y a deux points de vue qui s'affrontent, il faut soit que l'un des deux soit juste, ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible en a la réponse. Et bon, juste avant que nous prenions ces... abordions ce sujet, plutôt, avant que je prie sur la parole, je voudrais exprimer à chacun de vous que je, à vous les chrétiens en particulier, que j'aimerais, je voudrais que vous priez pour moi ce matin. Et tous ceux de l'auditoire invisible qui sont à l'écoute ce matin, priez pour moi, parce que je veux être honnête et dire la vérité. Or, nous sommes conscients qu'en faisant ces déclarations, il y aura quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Beaucoup d'entre vous repartiront d'ici en y croyant. Évidemment, il se peut que beaucoup d'entre vous, non. Seulement, je sais que dans mon ministère, il y a des gens qui viennent m'écouter, écouter ce que j'ai à dire. Il y en a de, eh bien, ils sont assis ici même ce matin. Il y en a de bien des pays, de beaucoup d'endroits, des États-Unis, du Canada et d'outre-mer. Vous imaginez ce que ça peut créer comme tension, de savoir que la destination éternelle de cet homme-là est entre vos mains, parce qu'il s'accrochera à ce que vous dites. Par conséquent, Dieu me demandera des comptes, alors je veux aborder ceci aussi sincèrement que possible. Maintenant, je demande à nos sœurs, j'ai changé quelques-uns des mots que j'avais pour pouvoir parler devant elles. Billy a dans sa poche, là, ce matin, certaines choses qui ne pouvaient pas être dites devant un auditoire mixte. Et il y en a certaines que je vais probablement dire, il vous faudra comprendre. Prenez-le comme venant de votre frère. C'est ce que j'en sais. Si vous étiez assise dans le cabinet d'un médecin, vous l'écouteriez. Il serait obligé de vous parler en termes très clairs. Et vous, les jeunes filles et les jeunes hommes, je ne voudrais pas que certains d'entre vous repartent avec une impression fausse. Je veux que vous croyiez et que vous restiez tranquillement assis. Souvenez-vous, la vérité doit être énoncée comme vérité. Et maintenant, sans doute que beaucoup d'entre vous seront en désaccord avec ce qui va être dit, mais je veux vous le prouver par la Bible. Et puis, je crois que si vous voulez seulement être respectueux et écouter, alors vous comprendrez mieux et vous aurez une meilleure idée de ce que j'attaque sans relâche depuis le début. Je crois que ceci va l'expliquer, et je l'espère. Or, il se peut que ce soit assez long, que nous prenions une heure et demie ou peut-être plus, là. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Et bon, j'aimerais encore dire qu'en ce moment, en sachant que les gens s'accrochent à vos paroles, ils s'accrochent à celles de leur pasteur. Et bien sûr, j'ai été moi-même pasteur. Ils s'accrochent aux paroles d'un pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. Ils s'accrochent aux paroles de leur prêtre comme si c'était une question de vie ou de mort. Et bien sûr, le pasteur, peut-être qu'il fait tout ce qu'il peut. Il enseigne ses fidèles exactement comme lui a été enseigné au séminaire. Sans doute que c'est pareil pour le prêtre dans les différentes religions où il y a des prêtres. Bien entendu, le pasteur, en fait, c'est un prêtre, c'est un intercesseur. Alors, si le prêtre, avec tout ce qui lui est enseigné au séminaire et dans les monastères, cet homme est profondément sincère. Il répète exactement ce qui lui est enseigné. Eh bien, moi, je n'ai aucune expérience de séminaire, aucune expérience de monastère, et je n'ai rien contre ça, pas du tout. Par contre, j'ai une vie très étrange. J'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon. Et là, un signe visible, audible, m'a été donné. Une colonne de feu dans un buisson, à l'âge de 7 ans, juste ici, sur Utica Pike. Mon père travaillait pour M. O.H. Wathen, qui est décédé dernièrement. Et vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Et depuis ce moment-là, ensuite, à la rivière là-bas, elle est apparue de façon visible devant les gens. Et à l'heure actuelle, elle a été photographiée bien des fois. Et la photo est accrochée à Washington, D.C., tout droit réservé, dans la salle des arts religieux. Le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuves scientifiques. La même colonne de feu qui a fait sortir Israël de l'Égypte, exactement la même apparence et la même en tout point. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ sous forme de l'Esprit, dans sa fonction de Fils de Dieu. En effet, il a été appelé Fils de l'homme quand il est venu la première fois. Maintenant, il est appelé Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera fils de David. Il est venu en tant que fils de l'homme, comme prophète, selon ce qui avait été annoncé à son sujet. Maintenant, il est fils de Dieu, dans le surnaturel. Dans le glorieux millénium à venir, il sera fils de David, assis sur le trône de David. Tous ceux qui étudient la Bible savent que c'est là une promesse divine que Dieu a faite à David, qu'il allait susciter son fils pour le faire asseoir sur son trône. Et maintenant, à cause de mon ministère singulier, étrange, on m'a traité de tous les noms, depuis Dieu jusqu'à un démon. Et ça, c'est tout simplement, c'est toujours comme ça. C'est ce que cet archevêque de l'Église catholique me disait l'autre soir, là-bas, lors de cette discussion. Il disait, « Frère Branham, Jean-Baptiste s'est clairement identifié dans les Écritures, comme celui dont avait parlé le prophète Ésaïe. » Il a dit, « Votre ministère est clairement identifié dans l'Église. » Il a dit, « Les luthériens sont dans la Bible. » Il a dit, « Les luthériens ont reconnu Luther. Les wesleyens reconnaissent Wesley. » Mais les pentecôtistes, eux, il a dit, « Ils sont errants, ils ne savent pas où aller. » J'ai dit, « Monsieur, j'apprécie cela. C'est là que l'Esprit est descendu sur cette dame qui ne m'avait jamais vu, sa femme, et il a parlé et identifié les mêmes choses. » Maintenant, pour être honnête, face au message que j'apporte ce matin, je ne sais pas, je lui ai dit, j'ai dit, « Monsieur, je ne pourrais pas dire ça. C'est une déclaration très forte, ça. Ça semble être le cas. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est certain. Toutes ces choses, c'est tout simplement, elles ont été prouvées par la science et démontrées maintes et maintes fois partout dans le monde. Ça ne peut pas être qu'un mythe, c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est? Permettez-moi de vous le confesser avant que je vous parle ce matin. Je ne sais pas, et jamais je n'oserais m'avancer en quoi que ce soit avant d'avoir entendu quelque chose de celui qui m'a parlé dans le passé et qui m'a dit ces choses. Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais identifié comme le Fils de Dieu. Il a dit, « Tu l'as dit, c'est pour ça que je suis né, et tout. » Mais il ne s'est jamais identifié. Et donc, cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ, sous forme de l'Esprit. Le croyez-vous? Le Logos qui est sorti de Dieu. Et puis, quand il était sur terre, il disait, « Je viens de Dieu et je vais à Dieu. » Nous le savons tous. Et après sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection, Saul de Tarse se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens, parce qu'ils enseignaient des choses qui allaient à l'encontre de l'enseignement qu'eux avaient reçu. Et c'était un vaillant combattant, l'élève de Gamaliel, un des docteurs remarquables de l'époque, de leur école, leur monastère. C'était un grand homme et quelqu'un de haut placé dans l'Église. Et là, une grande lumière, la colonne de feu de nouveau, l'a jeté à terre au milieu du jour. Et une voix dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Maintenant, si vous remarquez, quand Paul, Saul, s'est soulevé, il a dit, « Seigneur, qui es-tu ? » Or, ce jeune homme qui était juif, il n'aurait certainement pas appelé quoi que ce soit, il ne l'aurait pas appelé « Seigneur » s'il ne s'était agi de quelque chose qui représente Dieu. Donc, il s'agissait de la même colonne de feu. Comme Jésus l'avait dit, « Je vais à Dieu, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. » Il était là, revenu sous la forme d'une colonne de feu de nouveau. Il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, et il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Et nous comprenons que quand l'apôtre Pierre, qui avait reçu les clés pour bâtir l'Église, nous voyons qu'il était en prison et que cette même colonne de feu a passé à travers les barreaux, a ouvert les portes de la prison et a fait sortir Pierre mystérieusement, sans même que la garde soit dérangée. À mon avis, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et puis, on reconnaît toujours une chose à sa nature. Tout se reconnaît à sa nature, aux fruits qu'il porte. Et je vous demande d'observer le genre de fruits qu'elle porte. Cette lumière, qui est Dieu, puisqu'elle concorde toujours avec la parole de Dieu, et qu'elle démontre la parole de Dieu, elle prêche la parole de Dieu, et Dieu démontre que cette parole est vraie, d'une façon matérielle devant vous. Forcément qu'il doit y avoir quelque chose derrière tout cela. Des gens m'ont appelé un prophète. Je ne me donne pas le titre de prophète, parce que je n'oserais jamais dire ça. Mais je peux dire ceci, le Seigneur m'a permis de voir des choses à l'avance, d'annoncer des choses qui sont arrivées, qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Et ça n'a pas failli une seule fois sur les dizaines de milliers de fois. Tout ce qu'il a dit qu'il arriverait est arrivé. Ça, nous le savons tous. S'il y a une personne dans cet auditoire visible de ce matin, ou n'importe où, qui peut désigner une seule fois où ça a failli, vous êtes libre de vous lever et de parler. Mais si tous savent que chaque fois, sur les milliers de fois, ça a été parfaitement juste, dites « Amen ». Voyez? Alors, et ce serait la même chose partout dans le monde. Quelque chose est sur le point d'arriver. Dieu n'envoie jamais ces choses-là sans raison. Je pensais justement, là, j'ai mis ça ici sur une de mes notes, je porte ce matin une paire de boutons de manchette. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la vedette de cinéma Jane Russell. Sa mère est pentecôtiste. Et Danny Henry est son cousin germain, l'enfant de la sœur de sa mère. Il était baptiste. Il se trouvait à une réunion des hommes d'affaires à Los Angeles, en Californie, il y a 2 ans. Je venais tout juste de conclure sur des déclarations très puissantes, très énergiques. Et voilà que le surveillant, un des surveillants généraux des Assemblées de Dieu, est descendu pour venir sur l'estrade, de l'endroit où il était assis au balcon. Et il a dit, « Je ne crois pas que Frère Branham parlait sérieusement. » J'ai dit, « Je suis bien obligé de parler sérieusement, monsieur. » C'est ainsi dit le Seigneur. Et alors, c'était au sujet de l'Église de cet âge. Et à peu près à ce moment-là, ce jeune homme, qui est un homme d'affaires, son frère est... Il était là à filmer pour la télévision ce matin-là. Son autre frère est responsable du service des routes en Californie. Alors, après que la réunion a été terminée, Danny Henry s'est avancé. Il est venu sur l'estrade, comme ceci, avec tous les hommes qui étaient assis là. Il est venu me donner l'accolade et il a prononcé ces paroles. « Frère Branham, j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège, mais, il a dit, on pourrait faire de cela le 23e chapitre de l'Apocalypse. Et il y a seulement 22 chapitres dans l'Apocalypse. Il a dit, j'espère que ça n'a pas l'air sacrilège. À peine avait-il dit ça, maintenant ce garçon était baptiste et ne connaissait rien du surnaturel. » Avec ses bras autour de moi, il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Et quand il a eu fini de parler dans une langue inconnue, il y avait une femme corpulente, au teint foncé, assise juste devant moi. Elle s'est levée et elle a dit, « Ça n'a pas besoin d'interprétation. » Elle a dit, « Je suis de Shreveport, en Louisiane, ou de Baton Rouge, en Louisiane. » Elle a dit, « C'est nettement du français. » Victor le Duc. Un Français qui était assis là-haut, lui aussi, il a dit, « Certainement, je suis Français. » Et ça, c'était du français parfaitement. J'ai dit, « Un instant, vous, écrivez ce qu'il a dit. Et vous, écrivez ce qu'il a dit. Avant de dire quoi que ce soit, écrivez ce que vous dites et faites-moi voir vos notes. » Et donc, l'un l'a mis par écrit et l'autre l'a mis par écrit. C'était pareil, jusqu'à la ponctuation même. Et puis, à peu près au même moment, alors qu'ils apportaient leurs notes, un jeune homme blond, de belle prestance, s'est avancé du fond de la salle. Il n'y avait pas assez de place pour qu'il puisse s'asseoir. Il était debout au fond. Il s'est avancé, il a dit, « Un instant, moi aussi j'aimerais déposer ce que j'ai noté. » Il a dit, « Je suis l'interprète pour le français, à l'ONU, aux Nations Unies. » Il a dit, « J'aimerais remettre ce que j'ai noté. » Voilà que les trois notes étaient exactement pareilles, à partir du français. Et voici ce qui y est dit. Ce sont les notes originales, ce qui a été noté sur le moment. Celle-ci, c'est la note de Danny lui-même. Il l'avait mise dans sa poche. Évidemment, ça a été publié chez les hommes d'affaires chrétiens et tout. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile. Tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte, et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise! Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Et l'homme a signé son nom là. La déclaration ci-dessus a été interprétée par lors de la prophétie donnée à Frère Branham par Danny Henry, donnée avec trois témoins dans la cafétéria à Los Angeles, en Californie. Maintenant, ce même jeune homme qui avait donné la prophétie sans savoir ce qu'il disait, il est allé à Jérusalem il y a environ un mois. Il a eu le privilège de se rendre là-bas et de s'allonger dans le sépulcre, à l'endroit où Jésus est mort et a été enseveli. Et alors, pendant qu'il était allongé là, il a dit qu'il s'est mis à penser très fort à moi et qu'il a commencé à pleurer. Il se disait, comme ça a été difficile, vraiment, pour Frère Branham, de prendre position contre le monde et ces choses-là et toutes les églises. Comme on le disait une fois de quelqu'un, du côté de Billy Graham, on disait, nous pouvons reconnaître Billy Graham parce que toutes les églises font bloc en sa faveur. Nous reconnaissons Oral Roberts, les pentecôtistes. Mais comment arriver à accepter quelque chose quand cela va à l'encontre de l'enseignement que les gens ont reçu? C'est Dieu. Danny, son passe-temps, c'est de tailler des petites pierres. Il est allé à l'endroit où la croix avait été dressée, à l'endroit où l'on dit que la croix se trouvait dans le roc. Il n'y avait personne dans les parages. Alors il a détaché un petit morceau du rocher et il l'a mis dans sa poche comme souvenir. Il est rentré et il m'en a fait une paire de boutons de manchette. Et, chose étrange, quand il les a faits, on aurait dit qu'ils étaient tachés de sang. Et juste au milieu de chacun d'eux, un sentier droit et étroit les traverse tous les deux, d'un bout à l'autre. Or, il se pourrait que ce soit seulement... Voyez-vous, quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas remarqué. Mais moi, je considère ça comme un éloge aux choses que je crois. Je crois que tout a une signification. Et maintenant, en ce moment, quoi que le Seigneur ait, si ceci n'est pas ce qu'il a prophétisé quant à Malachie 4, et aussi à Luc 17 et à bien d'autres passages des Écritures qui doivent arriver en ce dernier jour, permettez-moi de dire ceci en terminant. Cela a posé le fondement pour cet homme quand il viendra. Alors je suis très reconnaissant de ce que le Dieu Tout-Puissant, si tel est le cas, m'ait permis de faire un petit quelque chose, avec mon peu d'instruction, pour exprimer ma gratitude pour son amour envers moi, mon amour envers lui, et notre amour envers les gens. Donc, en toute sincérité, j'aborde ce sujet, le mariage et le divorce. Que Dieu soit miséricordieux envers nous tous. Maintenant, écoutez attentivement. Et les sœurs, ne vous levez pas pour sortir. Restez assises un petit moment. Les frères, faites la même chose. N'éteignez pas vos postes, vous qui êtes en ligne avec nous. Ne faites pas ça. Restez assis tranquillement pendant quelques instants jusqu'à ce que ce soit terminé. Écoutez attentivement. Si vous n'êtes pas d'accord, notez les versets auxquels je me réfère. Et ensuite, étudiez-les avec une attitude de prière avant de prendre votre décision. Ô Dieu, aide-nous comme nous essayons d'aborder ce sujet. Or, il se peut que ce soit un peu long. Je ne voudrais pas que vous soyez pressés. Prenez votre temps, simplement. Faisons-le tous. et étudions la parole de Dieu véritablement et à fond, du mieux que nous pouvons l'étudier. Commençons par l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, et à partir, je pense, du verset 8 du chapitre 19. C'est là que j'aimerais commencer. Je peux bien commencer au premier verset et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Maintenant, souvenez-vous, ces choses que je dis, elles doivent venir de la parole de Dieu. Ce ne peut pas être mon opinion personnelle, parce que mon opinion, c'est comme l'opinion de n'importe qui d'autre. Mais il faut que ce soit en continuité avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le croyez-vous? Il est le même. Maintenant, je lirai au chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Je fais une pause là pour vous permettre de bien saisir, voir qui étaient ceux qui l'éprouvaient. Dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, que Dieu nous aide. Jésus a été confronté à ce passage des Écritures, à cette question, au tout début de son ministère. Moïse y a aussi été confronté au tout début de son ministère. C'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le pécheur, ça lui est égal. Par contre, c'en est une pour les croyants, parce que le croyant cherche à faire tout ce qu'il peut pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois, parce que c'est l'origine même du péché. Bon, je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses, mais je répondrai volontiers à votre lettre ou à tout ce que je peux. Ou nous avons les livres qui traitent de cela, et de bien des questions, et même des coupures de journaux, et tout, là, pour le prouver. Nous savons qu'il s'agissait d'Ève, cette pomme qu'elle aurait mangée, ce qui n'est même pas biblique. Et maintenant, ils prétendent que c'était un abricot. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle a commis un adultère, ce qui a produit le premier enfant, c'est-à-dire Caïn, le fils même de Satan. Car en lui se trouvait le mal. Il n'est pas venu à travers Abel. Le fils de Satan, c'était Caïn. Je sais quelle question vous avez là. Ève a dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » C'est tout à fait exact. Vous pourriez prendre la femme la plus méchante en ville, le pire homme. S'ils avaient un bébé, il faudrait qu'il vienne du Seigneur. Parce que Dieu a établi des lois. Et ces lois, comme le soleil qui se lève, mettez un gratteron dans un bon champ. il va pousser. Et il faut qu'il pousse, parce que c'est une loi de Dieu. Quand une semence a été plantée, elle doit pousser. Et rien ne peut faire pousser une vie si ce n'est Dieu, parce que ça relève de ses lois. Par conséquent, quand la semence mauvaise a été plantée dans le sein de d'Ève, il fallait qu'elle produise, parce que c'est la loi de Dieu, la loi de la production. Elle ne pouvait pas faire autrement que de produire, et il fallait que ça vienne de Dieu. C'est pour cette raison que les gens disent, les petits bébés, parfois, qui ne sont pas nés de parents chrétiens sont perdus. Le sang de Jésus-Christ fait l'expiation pour cet enfant, peu importe combien sa naissance et combien il est né dans le mal. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le petit enfant ne peut pas se repentir, parce qu'il n'a à se repentir de rien. Et c'est ça le péché du monde qui a été ôté par le sang de Christ. Les bébés vont au ciel. C'est le péché originel, et c'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus, comme il en était du temps de Moïse, la question s'est toujours posée. Et encore aujourd'hui, la question se pose parmi les gens. Parce que les gens veulent connaître la vérité. Mais là où il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Et maintenant, cette réponse, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque chose, et que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse, si on veut connaître la vérité. Et comme il s'agit ici d'une question biblique, la réponse devrait être biblique. C'est comme je disais, si je voulais aller vers l'Est ce matin, et le mieux possible, là, il y a quelque chose que je dois retrouver dans le champ, et cette chose se trouve directement à l'Est, alors j'irai vers l'Est. Quelqu'un dirait, « Frère Branham, l'Est, c'est par ici. » Ça pourrait bien être l'Est, mais c'est le Nord-Est. Je passerai à côté de l'objet même que je cherchais. Je reviendrai, je saurai que c'était faux. Et puis, si quelqu'un disait, « Frère Branham, allez par là, à votre droite. » Bon, là encore, ça pourrait bien être l'Est, mais c'est le Sud-Est. Je perdrais l'objet que je cherchais parce que je suis allé au-delà des limites du chemin parfait et direct. Bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre, elle, affirme, « Oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. » Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est, nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manqueriez de références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquez de références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'Écriture rejoint l'Écriture et connaître la vérité là-dessus. Ils prennent chacun une direction différente. Ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte, mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. C'est comme aujourd'hui, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une, c'est le calvinisme. L'autre, c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent, « Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas, je bois, ça ne me dérange pas, je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. » Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent, Oh, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui dire ces quatre vérités, mais je suis chrétien. Il faut que je reste tranquille. Voyez, vous vous retrouvez sur deux routes différentes. et ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Maintenant, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. On se retrouve sur deux routes différentes, l'une qui va dans une direction, l'autre dans une autre. Maintenant, voyons ce qu'est la vérité. Maintenant, écoutez et voyez si vous trouvez que ça a du sens. Par exemple, si je me préparais à partir outre-mer, je vais considérer ma propre famille. Je ferai venir ma femme auprès de moi et je dirai, « Je pars outre-mer, chérie. » Bon, voici le côté légaliste. Maintenant, ma femme, je vais te faire la loi. Si tu flirtes avec un homme pendant mon absence, quand je reviendrai, considère-toi comme divorcé. Et je ne veux pas que tu fasses de l'œil. Je ne veux pas que tu flirtes. C'est compris? Je suis ton mari. Si tu fais ça, je te répudierai quand je reviendrai. Ensuite, elle m'attrape par la cravate. Elle dit, « Mon bon monsieur, je veux te dire quelque chose. » Tu vois? Si tu fais de l'œil à une femme, si tu sors avec une femme, ou que tu flirtes avec une femme, tu seras un homme divorcé quand tu reviendras. Maintenant, ce serait un foyer heureux, ça. Vous ne trouvez pas? Ça, c'est les légalistes. Bien. Maintenant, l'autre côté, c'est que si je partais outre-mer et que je fasse une erreur, j'irai et je dirai, « Bon, écoute, je vais sortir avec cette femme-là. Oh, ma femme, ça ne la dérange pas, ça lui est égal. » Ma femme dirait, « Je vais sortir avec cet homme-là. Bill, ça ne le dérange pas, ça lui est égal. » Si ça m'est égal, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n'aime pas cette femme comme je devrais. Et si ça lui est égal, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. C'est ma femme. Je ne veux pas qu'un autre homme fricote avec elle. C'est ma femme. Maintenant, la façon correcte, c'est les deux possèdent une part de vérité, mais pas l'exacte vérité. Maintenant, quand je pars outre-mer, pour que ce soit comme ça devrait, nous nous rassemblons tous, ma petite famille, et nous prions ensemble. Je les confie à Dieu, et ils me confient à Dieu. Et à ce moment-là, nous partons outre-mer, je pars outre-mer. Or, je sais qu'elle m'aime, j'ai confiance en elle, et je l'aime, elle a confiance en moi. Tant que je l'aime comme ça, elle n'a pas à craindre que je sorte avec une autre femme. Tant qu'elle m'aime comme elle devrait, eh bien, je n'ai aucune raison de penser qu'un autre homme pourrait sortir avec elle, parce qu'elle est ma femme, et je la crois. Je crois que si je faisais vraiment quelque chose de mal, si je faisais une erreur, que je sortais avec une femme et qu'à mon retour je lui confesse et que je lui dise, « Meda, je ne voulais pas faire ça, j'ai été prise au piège, c'est tout. Cette femme est venue vers moi en courant, et elle m'a pris par le bras, elle s'est mise à faire telle et telle chose. Je crois qu'elle comprendrait, je crois qu'elle me le pardonnerait. Mais je ne le ferais pour rien au monde, parce que je l'aime. » Elle me pardonnerait, mais je ne le ferais pas quand même. Je ne voudrais pas lui faire de peine, pour rien au monde. Bien que je sache qu'elle me le pardonnerait, je ne veux pas lui faire de peine. Et c'est comme ça avec Dieu. Si un amour philéo, qui est l'amour humain, l'amour qu'on a en communion fraternelle, peut amener un homme à avoir ce sentiment-là envers sa femme, qu'en est-il de l'amour agapao, ce mot grec qui signifie l'amour de Dieu? Comment me ferait-il agir envers Jésus-Christ? Tant que je veux le faire, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Je dis que tant que j'ai à cœur de le faire, je vais le faire. Le légalisme va m'empêcher de le faire, parce que je sais que je serais puni si je le faisais. Mais la vérité vraie là-dessus, c'est que quand l'amour de Dieu entre dans votre cœur, là, vous voulez le faire. Voilà la vérité là-dessus. Voilà les deux écoles. Non pas le légalisme, ni l'autre, ni le calvinisme, c'est les deux. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de dénominations différentes. Il y a l'Église catholique, l'Église protestante, chacune d'elles dit que c'est eux le chemin. Vous voyez, nous avons le chemin. La vérité, c'est nous. Il y a les méthodistes qui disent, c'est nous qui avons la vérité. Les baptistes disent, c'est nous qui avons la vérité. Eh bien, à mon sens, tant qu'ils pensent comme ça, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Voyez? Par conséquent, comme je le disais dans ma prédication d'hier soir, il est le lieu où Dieu a mis son nom, le seul lieu d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pas par l'eau. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous introduit dans une communion, mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Voilà la vérité. Nous avons aussi deux points de vue sur le mariage et le divorce. Maintenant que notre Seigneur nous a dévoilé le mystère scellé de sept sceaux de sa parole en ces derniers jours. Bon, c'est peut-être du chinois pour beaucoup d'entre vous, mais mon Église comprend. Qu'est-ce? Vous avez entendu parler des visions et de ce qui est arrivé. Et la question est une question biblique. Nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une vraie réponse à tout, le secret caché, qui a été caché depuis la fondation du monde. Et la Bible prophétise et dit qu'en ce jour-ci, ces secrets seraient divulgués. Apocalypse 10, et quand le septième ange, le messager de Laodicée, sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seraient divulgués. Et c'est maintenant le dernier âge, qui est celui de Laodicée. Regardez tout ce réveil qui dure depuis maintenant 15 ans ou plus, et pas une seule dénomination n'en est sortie. Luther a eu un réveil, il y a eu une dénomination. Wesley, il y a eu une dénomination. Alexander Campbell, il y a eu une dénomination. Tous ces autres grands, John Smith et tout, des dénominations. Moody, tout au long. Mais ici, on en a eu un. D'habitude, un réveil ne dure qu'à peu près 3 ans. Mais celui-ci dure depuis plus de 15 ans, et pas une seule dénomination n'en est sortie, car c'est maintenant le temps de la semence. Il n'y a plus de balle. Après que la balle est partie, c'est la semence. Dieu est prêt. S'il n'est pas en train de le faire maintenant, il va appeler une église à la perfection par sa parole, Jésus-Christ. Remarquez, il doit y avoir une réponse quelque part. Et étant donné cela, le mystère de Dieu scellé de sept sceaux, les sept sceaux, combien comprennent cela? Levez la main. Voyons voir. Je pense que la plupart font partie de notre assemblée, d'un peu partout. Écoutez, sinon, les livres ne vont pas tarder à sortir sur le sujet. Nous avons des livres, nous en avons quelques-uns là-dessus maintenant. Jésus, dans notre texte, nous invite à nous reporter au commencement pour obtenir la vraie réponse biblique. Or, quand il était confronté à ceci, il y avait deux points à considérer. Le sacrificateur lui a dit, « Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme en marier une autre pour un motif quelconque ?» Et Jésus a dit, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Ensuite, ils ont dit, « Moïse nous a permis la lettre de divorce et de la répudier pour n'importe quel motif. » Il a dit, « Ça, Moïse l'a fait à cause. » Je fais une pause là pour souligner, à cause de la dureté de votre cœur. Mais dès ou au commencement, il n'en était pas ainsi. La question aujourd'hui, par exemple, de la paix mondiale, va-t-elle venir par la politique, par l'union des nations, qu'elles s'unissent? Je vous dirai non. Ça a toujours échoué et ça échouera encore. Mais il reste qu'il y a une vraie réponse à la question. Y aura-t-il la paix sur la terre? Oui, quand le péché aura été éliminé de la face de la terre, il y aura la paix. Mais jusque-là, il n'y aura pas de paix. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Dieu a donné un remède contre le péché. Écoutez bien là. Dieu a donné le remède pour éliminer le péché de la face de la terre. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu, ne veut pas accepter sa parole sur le sujet. Jésus a dit ceci, ça nous rappelle ce qu'il en est de ses paroles, en sachant qu'il a dit, « Les cieux et la terre failliront, passeront, mais les miennes ne failliront pas. » La question, la vraie réponse, ce à quoi Jésus veut que nous nous reportions, c'est de nous reporter au commencement. Donc ça, ce serait dans la Genèse, parce que le mot Genèse, c'est le chapitre des semences pour toutes les questions qu'il y a dans la Bible. Et il faut toujours se reporter à la semence, voir quelle sorte de semence il y a dans un champ, pour voir ce que vous aurez comme récolte. Donc, quelle sorte de semence a été semée? Comme la Genèse est le chapitre des semences, nous nous reportons à la Genèse. Jésus nous ramène à ce passage de l'Écriture au commencement. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est quand le temps a commencé, au début. Avant, c'était l'éternité. Or, notre question, là, c'était, remarquez, si nous nous reportons au commencement. Maintenant, ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement. Pour les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique. Et pour que ce soit dit clairement sur la bande. Si Jésus a dit, reportez-vous au commencement, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle. Au commencement, comme il nous a dit de nous y reporter, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? Et puis, nous voyons là qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait et dans une harmonie parfaite avec Dieu, rien n'allait de travers. Tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre. Toutes les étoiles, les galaxies, le système solaire, tout est parfaitement en ordre. Si l'une d'elles se déplaçait, ça interromprait le programme tout entier. Maintenant, écoutez. Le voyez-vous? Une seule interruption empoisonne tout le programme. Maintenant, quand les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une femme, voilà que cette femme a péché, ce qui a fait sortir tout le programme terrestre de sa continuité avec Dieu. Par conséquent, une seule parole ajoutée à ce livre, ou une seule parole retranchée de celui-ci, fait sortir le chrétien de sa continuité avec Dieu. Fait sortir l'Église de sa continuité avec Dieu. Fait sortir une famille de sa continuité avec Dieu. Tous les croyants risquent d'en sortir en n'acceptant pas chaque parole de Dieu. Donc, c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer. Ce n'est pas un chérubin qui a perturbé la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité, ce n'est personne d'autre qu'une femme, Ève.
Et c'est là qu'il y a eu rupture de ce commencement dont parlait Jésus.
Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle, une femelle de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, pas le cheval femelle, pas le chien femelle, mais la femme. Elle a rompu toute la continuité de l'opération de Dieu sur terre. Et elle a tout précipité dans la mort. La femme, pas l'homme, elle a rompu l'alliance. Elle a rompu l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu. Or, si elle a rompu son alliance avec son mari, elle a rompu son alliance avec Dieu. Donc, puisqu'elle a rompu son alliance avec Dieu, elle l'a rompu avec son mari. De même, quand vous rompez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu, voilà ce qui produit tant de membres d'église illégitimes. C'est parce qu'un groupe d'hommes se sont réunis et ont dit, « Eh bien, ce n'est pas cela que ça voulait dire. » Et c'est ce qui fait sortir toute l'organisation de la continuité avec la parole. Nous ne croyons pas cela. Le Dr. Jones a dit qu'il n'en était pas ainsi. Mais pourvu que Dieu ait dit qu'il en est ainsi, il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. C'est là que la continuité est rompue. Alors nous voyons, comme la continuité a été rompue, alors il y a eu rupture de la vie. Rupture aussi du temps. Rupture de l'alliance. Tout a été détruit. Quelle en était la cause? Une femme. C'est ça qui a rompu l'alliance. Maintenant, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire. Genèse 3. Bon, c'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme par la parole de Dieu. Elle n'était plus égale à lui. Par nature, elle était son égale, vous savez. Mais quand elle a transgressé la parole de Dieu, Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle. Genèse 3, 16, si vous voulez le noter. Elle n'était plus l'égale de l'homme. C'est elle qui avait transgressé la parole de Dieu. Vous le voyez, n'est-ce pas? Elle, l'Église ici, elle avait transgressé la parole de Dieu, ce qui l'a complètement fait sortir de la continuité. Voilà ce que l'Église a fait. Elle a tout entraîné dans la mort spirituelle. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'attaque sans relâche ces choses-là comme je le fais. C'est la vérité. Ça, ce sont des faits bibliques. Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Comment cette femme charmante, ravissante, parfaite, a-t-elle pu? J'ai vu un tableau une fois, je crois que c'était en Grèce, d'un artiste qui avait peint un portrait d'Ève. C'était la créature la plus hideuse qu'on ait jamais vue. On voit par là à quoi un esprit charnel peut regarder. Mais elle n'était pas comme ça. Elle était ravissante, parce qu'elle était une femme parfaite, complètement femme. Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Elle, qui était à ce rang élevé, elle était là avec l'homme, son égal. Mais nous savons tous maintenant qu'elle a perdu son égalité avec l'homme quand elle a péché. Et Dieu a dit, « L'homme dominera sur toi à partir de maintenant. » Or ça, c'est l'Écriture. Si vous le voulez, on pourrait le lire. Je vous donne les références bibliques pour gagner du temps, vu qu'il y a tout ce monde partout dans le pays qui est en ligne avec nous, et comme ça, vous pourrez le lire vous-même. Remarquez la raison pour laquelle elle a fait ça. Comment Satan a-t-il bien pu parvenir jusqu'à elle? Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout, il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Remarquez, la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originale. Elle ne fait pas partie de la création originale de Dieu. Elle est un produit dérivé. Par conséquent, au commencement, comme Jésus y a fait référence, elle n'était pas un être créé originellement par Dieu. Elle était un produit dérivé de l'homme, au commencement, quand Jésus y a fait référence. Souvenez-vous, Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originale. Il était un, mais après, il a été séparé. Il a eu une côte en moins. Remarquez, seulement un produit dérivé. Et remarquez, la seule de toute la création de Dieu, de tous les animaux et de tout le reste, elle était la seule conçue comme ça. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale. Mais Ève ne faisait pas partie de la création originale. Voyez-vous, il fallait que ce soit comme ça. Nous allons le voir un peu plus tard. Remarquez, cette création dont elle faisait partie, elle ne faisait pas partie de la création originale, mais elle était un produit dérivé. Et dans cette création, il... Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je veux vous dire la vérité. Et restez assis bien tranquillement. Jusqu'ici, ça va bien. Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu'une femme qui est trompeuse. Rien d'autre ne peut l'être. Rien n'a été fait pour être comme ça. De même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu'une femme. Or, la chute prouve que cette déclaration est vraie. La chute au commencement. Elle ne faisait pas partie de la création originale du commencement. Elle était en Adam. Mais elle ne formait pas en elle-même le sexe féminin au commencement. Elle a été le produit dérivé qui a été fait. Donc, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé aussi facilement qu'une femme. Il n'y a rien de ce qui a été conçu ou qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Réfléchissez, là. De toute la création, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde. Son épouse. Que cette gentille petite épouse se mette à fricoter avec un autre homme. Regardez cet homme assis là, avec ses enfants, les larmes qui coulent de ses yeux. Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Il n'y a aucun cochon, aucun chien, ni aucun autre animal qui soit conçu comme elle, ou qui ire autant qu'elle peut s'avilir. C'est vrai, ça. Sans manquer d'égard envers mes sœurs, mais je veux simplement que vous observiez. Aucun animal ne peut être immoral. Vous appelez le chien une coureuse, le chien femelle. Vous appelez le mâle, le cochon une truie. Mais elle a une moralité qui dépasse d'un million de mille celle de beaucoup de vedettes d'Hollywood. Voilà à quel point elle peut s'avilir. Elle ne peut pas... Pensez un peu à ça maintenant. Il n'y a rien de ce qui a été créé par Dieu, rien au monde, qui puisse être immoral, s'avilir autant. Vous dites, un instant, l'homme, on va y venir. La femme doit dire oui. Remarquez, il n'y a rien qui soit conçu pour s'avilir autant, ou pour se livrer à la souillure, rien que la femme. Un chien ne peut pas le faire. Un cochon ne peut pas le faire. Un oiseau ne peut pas le faire. Il n'y a aucun animal qui soit immoral ou qui puisse l'être, car il n'a pas été conçu de façon à pouvoir l'être. Un cochon femelle ne peut pas être immoral. Un chien femelle ne peut pas être immoral. Un oiseau femelle ne peut pas être immoral. Il n'y a que la femme qui puisse l'être. Maintenant, vous voyez où Satan est allé? Voyez? Mais il reste qu'elle a, que c'est quand même elle qui a le pouvoir de dire oui ou non. Voyez-vous? Ça dépend si elle veut se tenir ou pas. Voyez? Maintenant, nous pouvons voir clairement la semence du serpent, ici, par où elle est entrée. Il n'y avait qu'un endroit où il pouvait aller. dit « Avec ça, la chose n'est pas absolument évidente, quelqu'un est aveugle, voyez ?» Vous voyez, il fallait que ça en arrive là. Remarquez, la raison pour laquelle les animaux ne pouvaient pas le faire, un animal femelle, c'est parce qu'il faisait partie de la création originale. Mais la femme ne faisait pas partie de cette création originale. Maintenant, nous allons remonter dans le passé pour voir ça, et après nous reviendrons jusqu'au temps moderne dans le Testament. Elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la souillure et à une vie impure. La chienne ne le peut pas. Aucune autre femelle ne le peut. Il n'y a que la femme qui le peut. La chienne et tous les autres animaux, c'est une fois par année, et ce, pour avoir ses bébés. Pas pour le plaisir sexuel, mais pour avoir ses bébés. La brave truie, la brave chienne, c'est une fois par année, un moment précis, et ce, pour avoir ses bébés. Mais une femme est conçue pour le faire chaque fois qu'elle en a envie. J'ai biffé certaines choses ici. Vous pouvez vous imaginer le reste. La chienne ne le peut pas, la femme le peut. J'espère que le Saint-Esprit vous révélera le reste, ce que j'ai biffé ici. Elle est la seule espèce dont la femelle soit plus belle que le mâle. Il n'y a aucune autre espèce de toutes celles qui existent. Chez toutes les autres créatures de Dieu, on a de beaux mâles, comme chez les animaux, les oiseaux et tout, c'est toujours le mâle qui est beau. Regardez le grand cerf, de beaux grands bois, une bête imposante et la modeste petite biche. Regardez le gros coq avec toutes ses belles plumes et la petite poule brune. Regardez les oiseaux, l'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Pourquoi en a-t-il été ainsi chez tous les animaux créés par Dieu? Chez tous les animaux, c'est le mâle qui est le plus beau. Chez les moutons, chez les cochons, chez les chevaux, chez tous les autres, c'est toujours le grand mâle qui est beau. Chez les oiseaux aussi. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle. Pas l'homme. S'il l'est, il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Originellement, c'est comme ça. Pourquoi cet état de fait? Pour servir à tromper. Et d'ailleurs, celui qui l'a modelé, Satan, continue à agir sur elle en ces derniers jours. Je vais m'arrêter ici juste un instant. Belle! Saviez-vous que la première destruction à l'échelle internationale du monde ou mondiale, c'était à cause de belles femmes? Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils prirent des femmes. Pas vrai? Avez-vous remarqué l'accroissement de la beauté des femmes en ce jour? J'ai vu la photo de Pearl O'Brien qui passait à un moment donné pour la plus belle femme du pays. Il n'y a pas une adolescente de cette école qui ne l'éclipserait quant à la beauté. L'accroissement de la beauté des femmes témoigne de ce temps de tromperie. Quand l'Église a-t-elle été plus belle en apparence qu'aujourd'hui? Tout l'accent est mis sur de beaux grands bâtiments et des millions de ceci et des millions de cela. Ne voyez-vous pas, elle, la tromperie? Donc, il n'y a rien qui puisse s'avilir autant qu'elle. Et elle est conçue de façon à pouvoir tromper. D'ailleurs, Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours, parce que c'est lui qui l'a modelée. Je peux prouver ça tout de suite en retournant directement au commencement. Qui a commencé à agir sur elle? Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Vous voyez, c'est lui qui l'a modelée. C'est son arme principale pour entraîner l'homme dans sa souillure. Par sa beauté, la femme peut entortiller un homme comme elle veut. Frère, ce n'est pas le bar là-bas qui prend l'homme au piège. C'est cette belle femme qui marche dans la rue en se tortillant, à moitié habillée. C'est ça qui... Ce qui est trompeur, voilà, c'est ça. Elle s'en sert d'une façon mortelle, absolument mortelle. Vous allez peut-être me questionner parce que j'ai dit que c'est Satan qui l'avait modelé. Mais c'est la vérité. C'est Satan qui l'a modelé. Et c'est encore lui qui le fait. Je vais vous montrer quelque chose dans l'Écriture. Je dois vous ramener à l'Écriture. Ensuite, vous pourrez vous faire une opinion en regardant ce qu'il en est aujourd'hui. C'est Satan qui se caractérise par ce genre de beauté-là. Si nous remarquons, il était le plus beau de tous les anges du ciel. Pas vrai? Et il désirait faire du ciel un plus beau lieu que le royaume de Michel. Pas vrai? De même, pour vous montrer que Caïn était son fils, celui-ci a offert une plus belle adoration. Il a décoré ses autels avec des fruits, des fleurs et tout. Pas vrai? La beauté, le péché est beau, selon ce que nous appelons la beauté aujourd'hui. Et le péché est trompeur, par sa beauté. En regardant passer une femme dans la rue, vous ne pourriez jamais déceler ce qu'il y a dans son cœur. Voyez? Mais je voulais dire ces choses pour vous faire voir ce qui fait que c'est Satan qui l'a modelé. C'est tout à fait exact. Son propre fils l'a prouvé, Caïn. Donc, si elle est belle, c'est pour pouvoir tromper. Si le monde est beau, c'est pour pouvoir tromper. Je parle du cosmos, du système mondial. S'il est beau, c'est pour pouvoir tromper de très beaux endroits et du luxe. Vous vous souvenez le prophète Amos, quand il est monté et qu'il a regardé en bas vers la ville, qu'il l'a vu comme une Hollywood moderne. Il a plissé ses petits yeux sous les cheveux gris qui lui tombaient sur le visage. Et il est descendu là-bas avec un message. Il l'a fait tonner dans cette ville. Il a dit, « Le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira. » C'est exact. Le péché est beau. Il se représente Judas comme une espèce de vieil ivrogne qui traînait dans la rue quelque part, la lèvre pendante, avec des mouches dessus et tout. Judas. Judas était beau, fort. C'était un trompeur. Ce n'est pas ce gars-là qu'il faut surveiller autour de vous. Ce n'est pas le gars, le brave fermier, qui arrive en salopette qu'il faut surveiller autour de votre épouse. C'est ce fin rusé. C'est lui le coquin. Le péché est beau aux yeux du monde, mais Dieu ne se caractérise pas par ce genre de beauté. Saviez-vous ça? Dieu se caractérise par le caractère, un beau caractère. Dans la Bible, Ésaïe 53, si vous voulez noter la référence biblique, il y a beaucoup de références bibliques notées en marge ici pour appuyer cela. Ésaïe 53, la Bible dit de notre Seigneur Jésus, « Son aspect n'avait rien pour nous plaire, et il était semblable à celui dont on détourne le visage. » Pas vrai? Il ne nous plaisait pas, parce qu'il n'était pas beau. C'était probablement un petit homme aux épaules tombantes, au teint rosé, alors on ne voulait pas de lui comme chef. Il n'avait pas l'air d'un chef. Il utilisait le langage de la rue et tout, comme celui des gens ordinaires. Et alors, il n'avait pas l'air d'un grand érudit, de quelqu'un d'instruit, d'un homme bien, avec une grande soutane et tout. Il était simplement un homme comme les autres. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Depuis toujours, il allait et venait au milieu des hommes et ne savait même pas qui il était. Quand il marchait, il n'avait pas l'air d'un dieu, selon l'idée que nous, on se ferait d'un dieu. Mais n'empêche que c'est ce qu'il était. Avez-vous remarqué quand le Seigneur Dieu a dit à Samuel, « Va à la maison d'Isaïe, oindre un de ses fils pour roi, pour prendre la place de Saül. » Or, les gens avaient choisi Saül, alors que Samuel avait été formel. Il leur avait dit de ne pas le faire. Il a dit, « Dieu ne veut pas que vous ayez un roi, c'est lui votre roi. » Et il a dit, « Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Vous ai-je déjà réclamé de l'argent ou quoi que ce soit pour mes besoins personnels ?» Ils ont dit, « Non, tu ne nous as jamais réclamé d'argent, et tout ce que tu as dit au nom du Seigneur s'est accompli, mais nous voulons quand même le roi. » Alors ils ont choisi Saül. Regardez ce que le monde a choisi. Regardez ce qu'Israël a choisi. Israël, les oints de Dieu, ils ont choisi un homme qui dépassait d'une tête tous les hommes de la nation. Un bel homme, très grand, de belle apparence. Mais il a été l'empêcheur de tourner en rond du début à la fin. Seulement Dieu a dit, « Je vais vous choisir un roi, ce sera mon choix à moi. » Alors il a dit, « Samuel, je ne te dirai pas qui c'est, mais va là-bas, c'est l'un des fils d'Isaïe. » Isaïe, sa femme et tous, ils ont regardé autour d'eux, ils ont dit, « Oui, notre fils aîné, c'est un bel homme, très grand, la couronne royale lui ira à merveille. Il est intelligent, il est instruit, c'est un homme très bien, je sais qu'il fera très bien l'affaire. Il a une très bonne diction. » Quand ils l'ont fait venir, Samuel a pris la cruche d'huile et il s'est avancé vers lui. Il a dit, « Non, l'Éternel l'a refusé. » Alors il les a passés l'un après l'autre, jusqu'à 6 des fils, et l'Éternel a refusé chacun d'eux. Il a dit, « N'y en a-t-il pas un autre ?» Oh, il a dit, « Oui, il en reste un, il fait paître les brebis. Il reste toujours là-bas à faire de la musique, à chanter ses cantiques, à jubiler et à faire n'importe quoi. Mais c'est un petit bout d'homme aux épaules tombantes et au teint rosé. Il ne ferait jamais l'affaire comme roi. » Il a dit, « Va le chercher !» Et quand David s'est présenté devant le prophète a couru vers lui avec l'huile et l'a versé sur sa tête. Il a dit, « Voici celui que Dieu a choisi. » Pas beau, mais un caractère. Dieu regarde au caractère. L'homme regarde à la beauté naturelle. Elle est trompeuse. Et c'est pour ça qu'il a été donné cette beauté-là à la femme, pour la tromperie, pour tromper. Une femme qui est belle, si elle ne l'utilise pas comme il faut, c'est une malédiction pour elle. Ça va l'envoyer en enfer plus vite que n'importe quoi d'autre. Si seulement elle, si elle peut être belle, c'est sûr, tant qu'elle reste avec son mari, qu'elle fait ce qui est bien, et c'est très bien ça. Mais elle peut se servir de cette même chose-là, et oh là là, elle peut vraiment tromper avec, car c'est pour ça qu'elle lui a été donnée. Remarquez, bon, mais Dieu se caractérise par le caractère. L'aspect de Jésus n'avait rien pour nous plaire, mais il n'y a jamais eu un caractère comme le sien sur la terre. Maintenant, nous voyons aujourd'hui que le caractère de l'Église, Satan et son groupe, ils recherchent les belles grandes églises, les belles choses. C'est à ça que le monde regarde aujourd'hui. Oh, c'est le pasteur, le grand tel du temps, telle et telle chose, tellement sacerdotal et pieux, il s'avance avec sa grande soutane et tout. C'est ça qu'ils appellent la beauté. Mais les vrais saints de Dieu cherchent le caractère de la parole confirmée. C'est ce que les saints ont fait à cette époque-là, quand ils ont vu Jésus. Ils ne payaient pas de mine, mais ils ont vu que Dieu était en lui. Ils ont vu que Dieu était avec lui. C'est comme ça qu'on fait, c'est Joab et ces gens qui étaient avec David. Ils n'étaient pas grands, mais ils ont vu l'homme qu'il y avait en lui. Ils ont vu que Dieu était en lui. Et ils savaient qu'un jour, il allait parvenir au pouvoir. L'un d'eux a tué les 5 autres frères de Goliath, tout seul. L'un d'eux a tué 300 hommes, pendant que des femmes ramassaient des haricots pour le dîner et que l'armée était partie. Il a pris une lance et il a tué 300 hommes, 300 Philistins. Du caractère. Pourquoi? Ils ont pris position pour David. Ils savaient que l'onction était sur lui. Ils savaient qu'il allait parvenir au pouvoir. Une image parfaite de l'Église d'aujourd'hui qui prendra position pour la parole. Nous savons qu'elle sera confirmée. Nous savons qu'elle parviendra au pouvoir un jour. Bien que Saül, il était en fuite devant les autres nations, mais il savait qu'il parviendrait au pouvoir. Nous aussi, nous savons qu'il parviendra au pouvoir. Alors nous prenons cette parole et nous nous y tenons, quoi qu'il en coûte. S'il nous faut tailler des Philistins en pièces ou sauter dans une citerne et tuer un lion, comme l'un d'eux l'a fait, nous y allons de toute manière, parce que c'est la façon dont Dieu a prévu qu'il en serait. Nous cherchons le caractère. Maintenant, vous allez peut-être me demander, pourquoi a-t-il permis qu'elle soit conçue ainsi? Je ne veux pas prendre trop de temps, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire ici. Pourquoi? La question pourrait se poser. Donc, pourquoi Dieu a-t-il fait la femme comme ça? Pourquoi a-t-il permis qu'elle soit comme ça? C'était pour son bon plaisir, certainement. Maintenant, si vous voulez prendre vos Bibles un petit instant, prenons dans Romains 9 un petit instant, et nous allons vous montrer quelque chose, que c'est Dieu qui fait ces choses-là, si vous voulez le lire. Et on peut voir ici ce que Dieu fait pour son bon plaisir. Romains 9, 14. Alors, que dirons-nous donc? Y a-t-il devant Dieu de l'injustice? Quand il a choisi Ésaü ou qu'il a choisi Jacob et rejeté Ésaü, avant qu'aucun des deux garçons n'ait eu le droit de choisir lui-même, aucun des deux, avant qu'ils naissent, quand ils étaient encore dans le sein de la mère, Dieu a dit, « Je hais Ésaü et j'aime Jacob ». Voyez, pourquoi? Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, ce n'est ni celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il... Maintenant, regardez bien, là. Car il miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, alors pourquoi blâme-t-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience le vase de colère formé pour la perdition? S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers le vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Maintenant, argumentez donc là-dessus pendant un moment. C'est Dieu qui l'a fait. Il fallait qu'il fasse comme ça. Il fallait que ce soit là. Maintenant, écoutez. Maintenant, pendant environ 5 minutes, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Saviez-vous ça? Dieu, c'est un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et en lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ses attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père, c'était en lui d'être Dieu, c'était en lui d'être Fils, c'était en lui d'être Sauveur, c'était en lui d'être Guérisseur. Et toutes ces choses, ici, ne font que manifester ses attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y a rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ses attributs. Or, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même. Mais il savait qu'il tomberait. Bon, il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose ne soit malade. Il fallait que ces choses soient comme ça. Dieu les a faites ainsi pour que ces grands attributs puissent être manifestés. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais il l'était, nous le savons. Même avant que le temps existe, il était un sauveur. Il était un sauveur. Alors il faut que quelque chose soit perdu. Comment cela va-t-il être possible? Si l'on voit quelqu'un à sa perte, rien que pour pouvoir le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pourrait pas être juste et envoyer un homme en enfer. Il est bon, doux, fidèle, honnête, et il est un grand juge. Vous voyez, il irait à l'encontre de lui-même. Donc, il fallait qu'il mette un homme ici et qu'il lui donne le libre arbitre, de façon à ce qu'il... Il le savait qu'il tomberait. Et l'homme, qui avait été fait à sa propre image, comment pourrait-il tomber? Maintenant, est-ce que vous voyez la lumière du jour? Alors, il lui a fallu faire un produit dérivé, quelque chose à partir de la création originale. Maintenant, vous le voyez. Voyez, là, vous y êtes. Voyez? Ensuite, c'est ça qui est tombé. Il l'a fait en sachant que celui-là tomberait. Et il a été remis entre les mains de Satan comme vase d'un usage vil. Qu'est-ce qui est en honneur aujourd'hui? Pensez à ça. Maintenant, soyez très attentifs. D'autre part, pourquoi a-t-elle été conçue de cette façon-là et pas comme les autres femelles? Pourquoi la femme a-t-elle été conçue comme ça et pas les autres femelles? Aucune des autres femelles n'a été conçue comme ça. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Elles ne peuvent pas l'être. Comme elle n'est pas faite comme ça, elle ne peut pas agir comme ça. Alors, pourquoi n'a-t-il pas fait cette femelle-là, la femme, comme les autres femelles, pour qu'elle soit exactement comme les autres pour élever ses bébés, tout simplement? À ce moment-là, elle aurait eu son mari, et elle aurait vécu ainsi, et quand le temps serait venu d'avoir son bébé, elle aurait eu son bébé. Pourquoi? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait comme ça? Je ne peux pas utiliser ces termes. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Si vous comprenez, dites « Amen ». Oui, voyez, il y a des petites filles assises ici et des petits garçons, vous voyez. Mais vous savez que chez l'animal, il faut attendre une certaine période de l'année. Ensuite, elle a son compagnon, et puis ça s'arrête là. Mais la femme, c'est n'importe quand. Pourquoi l'a-t-il faite comme ça? Maintenant, regardez son grand plan s'ouvrir devant nous à mesure que nous avançons là. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Je ne savais pas ça jusqu'à l'autre jour. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite comme ça au commencement, comme toutes ses autres femelles? Parce que ce ne serait pas convenable pour lui d'agir ainsi. Il est la source de toute pureté. C'est pour cette raison qu'il devait laisser Satan s'emparer d'elle, faire ce qu'il a fait dans la perversion. Une créature comme celle-là serait... ne conviendrait pas à sa personne, conçue comme ça à l'origine. Toutes ses œuvres qu'il a conçues à l'origine sont dans la continuité. Toutes ses œuvres originales étaient dans la continuité. Le chien femelle, le chien mâle. Vous voyez, la vache femelle, la vache mâle. Tout est dans la continuité. Toute la nature est dans la continuité. La semence meurt, elle est mise en terre. C'est comme la mort, l'ensevelissement, la résurrection. La sève descend dans l'arbre. Celui-ci laisse tomber son feuillage. Il revient l'année d'ensuite avec la résurrection d'un feuillage nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui vient de Dieu jusqu'à la nature, tout ça est dans une continuité et dans une unité. Et voici quelque chose qui a été conçu en dehors de la continuité de Dieu. La nature est ainsi conçue qu'elle ne peut pas pécher. Pensez-y. La création originale de Dieu ne pouvait pas pécher. Oh, maintenant, ne voyez-vous pas, en considérant ceci, la perversion de l'Église? L'original, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a une créature qui a pris naissance par une perversion. Dieu aura une Église. Mais regardez cette chose pervertie qu'il y a ici. Dieu a les deux, le mâle et la femelle. Mais cette femme, voyez-vous, les symptômes même montrent ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu. Nous pourrions prendre une heure ou deux et éclaircir ça. Elle, cette créature, il l'a faite de façon à ce que ça se passe comme ça. Il a formé cette créature et il l'a faite de façon à ce que Satan puisse s'en emparer. Elle s'en est emparée et il l'a toujours sous son emprise. Elle ferait mieux de se réfugier à la croix et l'homme aussi. Remarquez, toute la nature est dans la continuité. S'il avait fait de la femme une partie de cette même création originale, alors il n'y aurait pas eu de péché, parce qu'elle n'aurait pas pu faire ça. Elle n'aurait pas pu faire ça. Elle est une perversion de la création originale. De même, tout péché est une perversion de la vérité originale. Un mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité pervertie. Un adultère, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte juste perverti. Alors, voilà la créature pervertie, voilà l'ensemble perverti. Et l'ensemble s'appelle P-E-C-H-E. C'est en plein là que ça se trouve. Voilà pourquoi cette question est si importante. Seulement un morceau, un fragment, formé à partir d'un homme qui va servir à le tromper. Dieu l'a formé. On en a la preuve ici même. C'est pour ça qu'elle a été faite. Une femme immorale, c'est la chose la plus vile qu'on puisse imaginer sur terre. Pardonnez-moi cette expression, les jeunes dames. Elle n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine, un étalage de sexe. Voilà tout ce qu'elle est, une femme immorale. C'est une poubelle sexuelle humaine, de la contamination dans laquelle se retrouve la souillure crasseuse, sale, vile, méprisable. Tous les péchés qu'il y a eu sur terre ont été causés par une femme. Un statisticien de Chicago, une femme avait rédigé un article là avec la police. Ils avaient fait une étude et aux États-Unis, dans les grandes villes des États-Unis, pour 98% de tous les crimes qui ont été commis aux États-Unis, sous n'importe quelle forme, il y avait soit une femme impliquée dedans ou bien qui en avait été la cause. Maintenant, si je dis tout ça, c'est pour en arriver à un point ici à la fin, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Elle a été faite pour tromper, comme elle l'a fait avec Adam au commencement, en lui disant que le fruit était agréable et tout, pour le tromper et l'éloigner de la parole. C'est comme ça que l'Église s'y prend aujourd'hui. Même chose. Mais ensuite, après, il est devenu son chef pour dominer sur elle. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, en ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Certainement, c'est elle qui domine sur lui. Probablement que maintenant, vous comprendrez ce que j'ai attaqué dans le passé. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est tout à fait exact. Je parle de celle qui est immorale, là, pas vous les sœurs. Dans quelques instants, nous allons vous donner votre place, votre vraie place, dans la parole de Dieu, ici. C'était selon le plan de Dieu dès le commencement. Alors, pour accomplir ceci, aujourd'hui, quel est le Dieu des États-Unis? Vous vous souvenez que j'ai prêché là-dessus il y a des années, au tabernacle? Le Dieu de cet âge moderne, une petite dévergondée assise là, toute maquillée, et la robe remontée au-dessus des genoux et tout ça. J'ai dit, voici votre Dieu. Et c'est vrai! Elle est sur toutes les réclames, à moitié nue. Elle est pareille dans la rue. C'est un instrument de Satan. Au commencement, a dit Jésus, voyez? Nous voyons que c'est comme ça maintenant, et au commencement est de quoi il parle. Or, autrefois, les païens faisaient d'elle un dieu. Le saviez-vous? Une déesse. Assurément, ils font d'elle une déesse. En effet, il y avait des actes sexuels qui faisaient partie de leur culte. Ils prétendent qu'elle était une créatrice, qu'elle portait la semence dans son sein et qu'elle créait. C'est un mensonge. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Or, vous vous souvenez de Paul, là, la Diane d'Éphèse, une sculpture en pierre dont on disait qu'elle était la déesse du ciel qui avait été précipitée. Ne voyez-vous pas comment opère le culte païen? Et nous, sans le savoir, nous retournons tout droit au culte païen des femmes, de la créature la plus vile de la terre, le culte de la femme. Elle va entortiller les hommes comme elle veut. Et sans savoir que derrière toute cette beauté à l'extérieur, il y a l'enfer à l'intérieur. Salomon a dit, ces portes, ce sont les portes de l'enfer. Maintenant, nous voyons clairement là de quoi Jésus parlait dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 15, au sujet de la doctrine des Nicolaïtes, cette église qui allait venir et qui s'éloignerait de la parole. Et nous pouvons aussi voir clairement là ce qu'il en est de ces émissions vulgaires, impies, dégoûtantes, qu'on voit à la télévision, ces reines du sexe de Hollywood. Nous pouvons voir la souillure de cette ville, alors que les enfants, les jeunes filles, se promènent dans la rue, là, avec des tout petits vêtements serrés sur le dos, en se tortillant, et qu'il fait assez froid pour les geler debout. Elles ne savent pas que c'est le diable qui leur fait faire ça. Elles sont possédées d'un mauvais esprit, et elles ne le savent pas. Vous ne voyez pas une chienne agir comme ça, n'est-ce pas? Vous ne voyez aucune autre femelle agir comme ça, et aucun mâle ne s'aviserait de s'approcher d'elle non plus. Voyez? Maintenant, vous voyez la situation? Nous allons aborder quelque chose dans un petit instant, si le Seigneur le veut. Maintenant, vous voyez les Nicolaïtes, vous voyez leur doctrine, vous voyez les reines de l'adolescence, comme ils les appellent, ces striptease dans la rue. Avant, il fallait aller à un spectacle vulgaire quelque part pour voir un striptease. Ouvrez simplement les yeux et regardez dans la rue. C'est tout ce que vous avez à faire maintenant. Tout est un striptease, certainement. Pourquoi agissent-elles comme ça? Pour aguicher, pour tenter. C'est la seule raison qu'elle peut avoir. Elle le fait parce qu'elle est impure. Elle le fait parce qu'elle est faite comme ça. Elle ne se rend pas compte qu'elle est un instrument dans les mains de Satan. Et c'est bien ce qu'elle est. Même dans nos écoles aujourd'hui, ils enseignent les actes sexuels. Notre monde pourri du culte de la femme. Je sais qu'ils ne veulent pas le croire. Ils vont se tenir là, à chanter une espèce d'hymne, et tout, un certain jour, ensuite ils fricotent avec les femmes, ils sortent toute la nuit. Voyez? Bien. Alors qu'aux yeux de Dieu, de la parole, elle est ce qu'il y a de plus vil de tous les animaux que Dieu a placés sur terre. Regardez bien, c'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner sa parole. C'est exact. 1 Timothée 2, 9 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre aucune autorité. Voyez? Et aussi 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, car elles ont reçu l'ordre de se taire, selon que le dit aussi la loi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église fait? Elles en font des pasteurs, des évangélistes, alors que la Bible l'interdit formellement. Et la Bible dit, selon que le dit aussi la loi, ce qui maintient tout dans la continuité. C'est comme l'agneau, hier soir, le seul lieu d'adoration, sous le sang versé de l'agneau. C'est le seul lieu aujourd'hui, en Christ. La seule chose à faire, c'est d'entrer en lui. C'est le seul lieu d'adoration. Il en a toujours été ainsi. Le seul lieu d'adoration, c'est sous le sang versé. Donc maintenant, nous voyons tout le tableau d'ensemble qui s'ouvre devant nous. La voilà. C'est pour ça que Dieu ne lui permet pas d'enseigner, ne lui permet pas de faire quoi que ce soit dans l'Église, à part rester assise, le visage voilé. Maintenant, voyez-vous pourquoi j'ai dit les choses que j'ai dites et fait les choses que j'ai faites? Alors que je savais tout ça dans mon cœur, frères, sœurs, je sais, les sœurs, vous avez votre place dans un petit instant et le caractère merveilleux que Dieu peut façonner en vous. Mais là, j'essaie simplement d'apporter l'autre côté pour montrer d'où vous provenez, en fait, au commencement. Jésus nous a dit de nous reporter au commencement pour savoir ce qu'il en est. C'est ce que nous faisons. Maintenant, j'ai été obligé de me limiter aux grandes lignes pour beaucoup de points. Alors j'espère que vous comprenez ce qu'il en est. Et quant à vous, les gens qui écouteront la bande, j'espère que vous comprendrez. Retournez en arrière, tout simplement. C'est simplement pour montrer que Jésus a dit, retournez en arrière, au commencement, et voyez ce qu'il en est. Pour toute chose, reportez-vous au commencement. Vous pouvez voir ce qu'il en est aujourd'hui. Eh bien, les gens, ils disent que je suis un misogyne. C'est loin d'être la vérité. Je n'en suis pas un. Ils disent, un misogyne. Souvenez-vous, ils ont traité Paul de misogyne. Il n'y a pas longtemps, une femme prédicateur disait « Oh, vous êtes comme le vieux Paul. Tout ce qu'il trouvait à faire, c'est de rouspéter après nous les femmes. » Un saint de Dieu à qui il était permis d'écrire la Bible, le Nouveau Testament, et contester ses paroles, il a dit « Quand un ange du ciel enseignerait autre chose que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. » À plus forte raison, une femme prédicateur. Ils ont dit d'Élie que c'était un misogyne. Ce n'était pas un misogyne pour ce qui est des vraies femmes. Il n'aimait pas les Jézabel, c'est tout. Et si c'était le cas, alors il faut nécessairement que ce soit pareil pour Dieu, parce qu'il est la parole qui est venue au prophète. Donc, il faut que ce soit pareil pour Dieu. Donc, voyez-vous, il connaît la création originale. Dès le commencement, a-t-il dit, dès le commencement. C'était des prophètes à qui la parole est venue. Et elle, il l'a créée pour l'homme, et non l'homme pour elle. Saviez-vous ça? Que la femme a été créée pour l'homme, et non l'homme pour la femme. Combien le savent? La Bible enseigne. Très bien. Elle a reçu une position avec l'homme avant la chute. Elle était son égale et gouvernait toute la création. Seulement après la chute. Bon, là nous abordons le sujet. Seulement après la chute, il est devenu son chef. Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions. Maintenant, après que le commencement original est terminé, Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est quand le temps a commencé. D'abord, quand Dieu a procédé à sa création originale, tous ceux qui comprennent, dites encore « Amen ». Au commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. Mais après, la femme a été faite différemment des animaux, de tous les autres animaux, et ce, pour tromper. Maintenant, regardez bien. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Elle a été faite, s'il était demeuré dans son état original, elle n'aurait jamais, il n'y aurait pas eu de chute. Mais elle a causé la chute et l'interruption qui a rompu toute la continuité de Dieu et a répandu la mort, le chagrin et tout le reste sur la terre. Elle a été faite ainsi. Maintenant, remarquez, donc après le commencement, après que le temps a commencé, avant ça, c'était l'éternité. C'est terminé. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, après la chute, une autre alliance a dû être faite. Or, ceci va vous achoper, mais je vais vous donner le passage de l'Écriture pour prouver que c'est la vérité. Donc, remarquez, après la chute, Jésus a dit, « Dieu, au commencement, en a fait un de chaque espèce. » Mais maintenant, après la chute, là, nous allons plus loin, l'alliance en était une d'égalité. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance séparée. Maintenant, voyons si c'est exact. Prenons Genèse 3 et voyons si c'est exact là, alors que nous avançons. En effet, nous voulons être bien sûrs que ces choses qui sont enseignées et mises en évidence sont tout à fait vraies. Aussi, peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment, car nous ne sommes pas très loin de la fin, là, d'arriver à la conclusion de ce sujet, montrer le pourquoi et ce qu'il en est des divorces et tout. Donc, dans la Genèse, au chapitre 3, et nous allons commencer là, au chapitre 3 et au verset 16. Commençons au verset 14. « L'Éternel dit au serpent, c'est là qu'il va le maudire. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La promesse qui allait venir à travers la femme, le Messie, pour racheter. Il dit à la femme, « Maintenant, regardez donc, voilà l'alliance qui a été faite avec le serpent. Et avant, tout allait bien pour tout le monde, au commencement ou avant le commencement. » Il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ils ne sont plus du tout égaux. Voilà que maintenant, elle a fait volte-face, et c'est elle qui domine sur lui. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. » Ce n'est pas Adam qui est maudit là. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Deux alliances. Voilà qui clôt le commencement, dont Jésus disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance là. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une pour le produit dérivé. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création, a entraîné un changement dans toute la nature. Maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait quand il a dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Maintenant, ce n'est pas « au », c'est « maintenant, c'est après le commencement ». Maintenant, il y a une alliance double. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Or, la femme a péché, et qu'est-ce qu'elle provoque? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça, une autre alliance. La voilà, ici même, dans Genèse 3, 16. Il a fait une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Bon, mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui, à travers les femmes. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme, pour ramener ça au commencement original, de nouveau, sans désir sexuel. Il est né d'une vierge. Mais, alléluia, il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre. Ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang, par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles. Un cerf, tout un harem de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, de femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là. Alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Voyez ? David, le roi qui représentait Christ, ne perdez pas ça de vue. David représentait Christ. Le croyez-vous ? Christ est assis, s'assiera sur son trône. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, il a eu 500 femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? David avec ses 500 femmes, Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le naturel. Et il représente Jésus-Christ, le fils de David dans le spirituel. Or, dans ce cas-là, c'était la vie naturelle, par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. Pourquoi ? Créée. Voyez-vous, c'était comme ça au commencement, mais pas maintenant, dans cette vie que nous vivons maintenant. Remarquez, ne manquez pas ceci, là. Faites descendre tout ça dans vos cœurs. Par contre, pas même une seule de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. Il est la création originale, pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Or, je suis retourné en arrière, j'ai pris mon temps, et je vous ai montré où ça a commencé, là-bas, ce que Jésus avait dit. Maintenant, le voyez-vous clairement ? Il pouvait avoir autant de... Oh, vous dites, ça c'était seulement pour Israël. Ah oui ? Quand Abraham a emmené Sarah au pays des Philistins, il y avait un roi là-bas, du nom d'Abimélec. Et Sarah avait 100 ans, tout près de 100 ans, mais elle avait été changée, elle était redevenue une jeune femme, et avait retrouvé sa beauté. Savez-vous ça ? Très bien. Et Abimélec voulait l'avoir pour femme. Vous vous souvenez de mon message là-dessus ? Abimélec voulait prendre Sarah pour femme. Il disposait probablement d'un harem, mais il ne pouvait pas la prendre si elle était mariée avec Abraham. Alors, Abraham a dit à Sarah, « Dis que tu es mon frère, sinon il me tuera pour pouvoir te prendre. » Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement chassé Abraham du pays, pris sa femme et continué comme ça ? Ce n'était pas seulement une loi pour les croyants, mais pour tous les gens de la création. Pécheur ou saint, tu es responsable, toi, homme, de tels actes. Là, il s'agissait d'un roi païen. Combien savent que cette histoire est vraie ? C'est la Bible, Genèse, vers le chapitre 16, je pense. Si vous remarquez, Abimélec l'aurait prise pour femme. Il s'était préparé à prendre cette nouvelle jeune fille israélite. Et il a dit, c'est ma... Elle a dit, c'est mon frère. Il a dit, c'est ma sœur. Alors Abimélec avait dit, dans ce cas, je vais simplement la prendre pour femme. Pouvez-vous imaginer un homme qui ferait une chose pareille ? Mais c'est ce qu'il a fait. Et puis, cette nuit-là, pendant qu'il dormait, le Seigneur lui est apparu en songe et lui a dit, Abimélec, considère-toi comme un homme mort. Il protégeait cette lignée de sang juif, là, vous voyez ? Il a dit, « Considère-toi comme un homme mort. C'est la femme d'un autre homme que tu es sur le point d'épouser. » Il a dit, « Seigneur, tu sais que j'ai un cœur pur. » Il a dit, « Ne m'a-t-elle pas dit que c'était son frère ? Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur ?» Il a dit, « Je sais que tu as un cœur pur. C'est pour cette raison que je ne t'ai pas laissé pécher contre moi. » Pas vrai ? Il a dit, « Redonne-lui sa femme, parce que cet homme-là est mon prophète. Si tu ne lui rends pas sa femme, et qu'il prie pour toi, pas ton prêtre, S'il ne prie pas pour toi, ce sera la fin de toute ta nation. Amen. Voilà la grâce étonnante. Exact. Ce sera la fin de toute ta nation. Elle est la femme de cet homme, et lui, c'est mon prophète. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est l'Écriture. Exact. Donc, nous voyons que la mort a été causée, que la mort, c'est à cause du péché de la femme, elle est venue par la femme, et non par l'homme. C'est par sa manière de vie, et par elle, que toute mort survient. Sa manière de donner la vie, c'est la mort. Combien savent ça? Job 14, si vous voulez noter la référence biblique. Si vous en doutez, j'ai noté les références bibliques pour tous les points que j'apporte. Si vous voulez lire Job 14, là, il est dit, « L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. » Pas vrai? Il naît, il est coupé comme une fleur, il perd sa force et tout. Voyez? Tout homme né de la femme naît dans la mort dès qu'il vient au monde. Mais quand il naît dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir. Il vient de cet autre arbre qui était dans le jardin d'Éden, Christ. La vie éternelle est venue de cet arbre. Oh, vous dites, elle était un arbre? Certainement. Eh bien, ils ont dit, « Tu ne mangeras pas de cet arbre. » Dieu a dit dans la Genèse, là, « Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. » Eh bien, la femme est cet arbre. Elle est un arbre fruitier. Vous êtes le fruit de votre mère. Le fruit du sein, c'est vous. C'est exact. D'autre part, le fruit de l'arbre de la vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, c'est Christ. À travers la femme est venue la mort. À travers l'homme, dans la création originale, est venue la vie. Naître d'une femme, c'est la mort. Naître de Christ, c'est la vie. Vous saisissez? Voilà où, maintenant, vous voyez où les déesses sont allées, n'est-ce pas? Les premiers Adam et Ève typifiaient les seconds Adam et Ève. Vous voyez la multiplication. Or, la multiplication d'Adam et Ève s'est faite par le sexe, pour remplir la terre. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu avait fait seulement un homme et une femme, comme il l'avait fait pour ses autres créatures. Vous voyez, c'était légal, tout comme l'Église. Maintenant, prenant en considération ces vérités confirmées de Dieu, continuons à avancer dans notre recherche, si vous êtes d'accord. Bien. Or, ceci va peut-être faire un peu mal, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fond de la question, mais je vais vous montrer que c'est la vérité. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez les Lévitiques, Lévitique 21:7 et Ézéchiel 44:22. Et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi. Il nous reste encore 20 minutes. Eux, c'étaient les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Ils ne pouvaient pas épouser une autre femme et une femme qui avait été touchée par un homme. Ce qui montrait sous forme de type ici, si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant est la parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui était manipulée par l'homme. Notez, lisons ceci là, je veux vous faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Nous voulons le voir, Matthieu 5. J'ai écrit sur... J'avais noté certaines choses que j'avais l'intention de dire seulement aux hommes. Alors, ça n'a vraiment pas été facile de le dire devant nos sœurs. Mais je veux aborder ceci maintenant, avant... Maintenant, sœurs, je veux vous mettre à la place qui vous est promise par la parole de Dieu. Et alors vous verrez. Et restez à cette place-là. Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée de « un » et « beaucoup ». Matthieu 30, je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle, celui qui a dit, au commencement, maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Pourquoi ? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à lui, l'a fait commettre. Pas lui, vous saisissez? On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Mais elle, elle ne peut pas. Vous voyez, l'a fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit, l'a fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. Mais elle, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier, à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier, il peut. Il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà, pas de divorcé, absolument pas. Maintenant, voyez-vous ce qu'était l'original là-bas, au commencement? Se remarier, maintenant, remarquez, lui, il peut, mais elle, non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité, donc comme David et tous les autres. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe, par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée et l'est dans la continuité. Voyez-vous qu'une école est partie à l'est et que l'autre est partie à l'ouest sur la question? Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu au commencement. D'abord, avant le commencement, au commencement, c'était seulement un et une. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux, et les êtres humains, la chair naturelle, elle est animale. Nous sommes des mammifères, ça nous le savons tous, voyez. Et tout ça, c'est la nature que Dieu a créée dans sa continuité. Mais maintenant que les seaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé. C'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol, ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme tout chétif qui corresponde à cet éléphant, ou bien l'éléphant qui corresponde à un petit homme tout chétif? Maintenant, si vous voulez en observer le type parfait. Or, il existe une femme véritable, vierge, qui épouse son mari et vit ainsi. Et celle-là est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu avait pu donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Mais elle est conçue en vue de l'acte sexuel. Et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie. C'est à cause de ça. C'est ce qui l'a introduite. Maintenant, regardez. En dernière analyse, regardez. Il y a un Jésus-Christ, pas vrai? Un homme, Dieu, Emmanuel, le croyez-vous? Mais sa femme est formée de beaucoup de membres. des milliers de milliers de milliers. Pas vrai? Sa femme, l'épouse, l'Église. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit induit ou introduit, multipliez, remplissez la terre. Alors qu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. Alors, on voit par là que l'épouse doit venir de la parole, par multiplication spirituelle, voyez-vous, pour remplir la terre. Maintenant, dans l'acte sexuel, vous voyez, les écoles ont confondu ces deux choses-là. Par conséquent, on ne peut pas faire ça. Il faut se reporter à la vérité sur le sujet, au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus et son épouse sera formée de beaucoup de membres, au singulier. Vous saisissez? Il y avait un David sur un trône, un roi, selon le cœur de Dieu, qui avait 500 femmes. Jésus, assis sur son trône. Alléluia! Dans le millénium, avec une épouse, comme il en était au commencement, tiré de la terre, créé par la main du Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection, formé de beaucoup de membres. Voilà. Femmes, efforcez-vous d'être cela. Entrez en Christ, et alors vous ne serez pas dans ce fouillis, cette souillure qu'il y a là-bas. Mais tant que vous êtes seulement un membre d'Église, que vous essayez par vous-même de mener une bonne vie, une vie morale, vous n'y arriverez jamais. L'homme non plus ne peut pas y arriver en dehors de Christ. Comme Paul le disait ensuite, « Mais ils sont en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ils sont tous un. » Mais pour ce qui est de redresser cette question du mariage et du divorce, pour que vous sachiez qui avait raison et qui avait tort. Là, il le montre de façon très claire ici, dans ces types. Il y a un seul Christ et beaucoup de membres qui forment cette épouse. Remarquez, lui, il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines, quand il le désire. Mais comment oseriez-vous essayer de le répudier tout en pensant y arriver? L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous toutes les ombres et les types, là, dans un équilibre parfait? Voyez-vous, la création originale, pas le produit dérivé, nulle part, pas l'Église, mais l'épouse par la parole, pas la femme, mais l'homme chaque fois. C'est pour ça qu'il n'est jamais dit que l'homme ne puisse pas le faire, c'est toujours la femme. C'est tout à fait exact. Mais elle peut être l'épouse de Christ en étant... Et souvenez-vous, comme elle est une partie de l'homme, la Bible déclare qu'elle peut seulement... Toutefois, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est le produit dérivé qui a été séduit. Elle sera néanmoins sauvée si elle persévère dans la sainteté, dans la modestie, et en devenant mère et tout. Parce qu'à ce moment-là, elle devient une partie de cet homme. C'est ce qui fait, pourquoi Abraham n'a-t-il pas, pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Sarah, assise là? Elle a nié, elle a menti à Dieu en face. Il était assis là comme un homme mortel, il mangeait de la viande, il mangeait du pain, il buvait du lait. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri là derrière? Elle était derrière lui dans la tente, il ne l'avait pas vue, en disant, comment est-ce possible? Elle a dit, je n'ai jamais dit ça. Oh, oh là là, dire à Dieu en face qu'il est un menteur. Mais il ne pouvait pas la reprendre. Pourquoi? Elle est une partie d'Abraham. Amen. Il ne pouvait pas lui faire de mal sans faire de mal à Abraham. Maintenant, vous les femmes, vous voyez quelle est votre place. Et la Bible dit, vous les femmes, soyez comme Sarah, qui se vêtait d'une manière décente, qui était loyale et fidèle à son mari, qu'il aimait tellement qu'elle l'appelait son Seigneur, son chef, la propriété. Et certaines d'entre vous, les femmes, qui mettez ces vêtements dégoûtants et qui sortez pour vous montrer comme ça devant les hommes. Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors, qui est coupable? L'homme ou vous? Il est un mâle. Il est fait pour assumer cet acte. Vous voyez? Et vous, vous êtes la femme qui devrait refuser. Pourquoi sortez-vous habillée comme ça? Ce n'est pas pour le confort. Vous savez bien que ça ne peut pas être pour ça, alors que vous mourrez presque de froid avec vos shorts. Vous voyez, ça ne peut pas être pour le confort. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour la souillure. Vous ne voulez pas l'admettre, mais la Bible le dit. C'est la vérité. C'est un esprit impur qui est en vous. Vous ne voulez pas être impur, mais vous ne vous rendez pas compte que spirituellement vous êtes impur, puisque vous vous présentez dans cette tenue impure. Bon, un homme, ces espèces de vieux genoux noueux, même s'il n'avait pratiquement rien sur le dos, ça ne changerait rien. Son corps n'est pas tentant. Pourquoi? Il faisait partie de la création originale, le caractère. C'est ce qui devrait être là. Mais vous, vous êtes le produit dérivé qui sert à tenter. Que Dieu ait miséricorde. Oh là là, ce monde de péché. Je serai content quand ce sera fini. Remarquez, il peut répudier sa femme quand il le veut. Mais elle, elle ne peut pas le répudier. Il peut me faire mordre la poussière chaque fois qu'il décide de le faire. Mais oh frère, que je ne m'avise jamais d'essayer de lui faire mordre la poussière à lui. Je suis fichu. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. Salomon, par exemple David, il a épousé, comment s'appelait-elle? Abigail. Il y avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille épouse et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. C'était un roi, pas un sacrificateur, vous voyez? Alors il s'est marié.
Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça, parce qu'il aurait touché ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme.
Alors, on voit par là la virginité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse devra être la parole, sans mélange, pas une seule parole qui manque, nulle part, certainement. Pouvez-vous imaginer une épouse normale à qui il manquerait un sein et dont l'autre aurait quelque chose de travers, vous savez? Ce n'est pas comme ça que sera l'épouse de Christ. Elle est parfaite. Elle est entièrement la parole. Pas une seule parole qui fait défaut, nulle part. Non. Remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne peut pas le répudier. Il l'a fait et l'a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, du pentecôtisme, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui par un rapport sexuel spirituel où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la parole. Vous comprenez? Elle a refusé. L'Église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Luther a refusé. Et permettez-moi de dire ceci, vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Il en est de même aujourd'hui pour chacune d'elles. Elles n'acceptent pas la parole, elles refusent Christ. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous vous souvenez, dans la Bible, quand le roi a épousé Esther? Parce que la reine avait refusé. Il en a pris une autre, tout simplement. Et quand... Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et c'est la même chose pour l'Église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant, pour produire des enfants de cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens, et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci, par la fécondation de la parole de Dieu, pour produire un enfant de cet âge, l'enfant semence. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répudiée, a divorcé d'avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier. C'est lui qui l'a répudié. Et il a continué à révéler sa parole au corps et a confirmé lui-même qu'il s'agit bien de lui. Ses enfants se sont mis à lui ressembler de plus en plus, parce que tout cela arrive à une pleine maturité. Autrement dit, ils deviennent des enfants de la parole, pas des enfants de l'Église, des enfants de la parole. Et l'épouse sera une charmante petite dame de la parole, sans mélange, qui n'a été touchée par l'organisation d'aucun homme, par aucune théorie d'homme. Elle sera l'épouse de la parole, pure et sans mélange. Amen et amen. J'espère que vous saisissez, vous qui êtes à l'écoute là-bas. Elle sera la fille de Dieu fécondée. Vous voyez de quel grand honneur la femme peut être l'objet? Vous voyez comme l'Église peut être quelque chose de grand, mais vous voyez où sa souillure l'a menée? Et ensuite, d'essayer de comparer l'Église du dehors avec cette Église-ci. Vous ne pouvez pas le faire. Et d'essayer de comparer la prostituée avec l'Église du Dieu vivant, ou la femme comme il faut avec une prostituée? Pourquoi ces choses-là existent-elles? C'est une loi de Dieu, la loi des contrastes. Comment pourrions-nous apprécier la lumière du jour s'il n'y avait pas la nuit? Comment pourrions-nous apprécier le temps sec s'il n'y avait pas la pluie? Comment pourrions-nous apprécier et respecter une vraie femme s'il n'y en avait pas une qui était impure? Il a continué à la révéler, à révéler sa parole, mais que personne d'entre nous ne s'avise d'essayer de le répudier et d'en épouser un autre. Maintenant, certainement qu'il apparaît clairement pourquoi les deux théories sont fausses. Vous ne pouvez pas partir dans cette direction-ci, ce serait fichu. En partant par là, vous allez bien au-delà de la promesse. Voici la promesse. Voici ce qu'il en est, ici même. Il n'y a aucune contradiction dans la parole. Elle doit garder sa continuité. Donc, pas plus que Matthieu 28, 19 n'est en contradiction avec Acte 2, 38. Bon, il y en a certains parmi vous, les femmes, les hommes, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cela. En effet, vous savez, vous ne pouvez pas le cacher en ce moment. Vous ne pouvez pas. Mais je vais juste vous montrer quelque chose. Si Matthieu 28, 19 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », et que, par la suite, toutes les personnes qui ont été baptisées de façon contraire à cela, qu'elles ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Tout au long de l'âge de la Bible, même, et pendant les 300 ans qui ont suivi l'âge de la Bible, jusqu'au Concile de Nicée. Après, au lieu de ça, ils ont adopté des dogmes. Qu'est-ce que ça peut changer si ce n'est pas révélé? Et savez-vous que le livre tout entier, la Bible tout entière est une révélation? C'est comme ça que vous devez connaître la vérité, distinguer entre ceci et cela. C'est parce que c'est une révélation, et la révélation doit concorder exactement avec la parole, et non aller à l'encontre de la parole. Vous dites, « Eh bien, ça m'a été révélé. Alors, si ça va à l'encontre de la parole, ce n'est jamais venu de Dieu. » C'est exact. Maintenant, si vous voulez prendre Matthieu 16, 18, Jésus lui-même a dit que toute l'Église, son Église, serait bâtie sur la révélation spirituelle de lui-même, c'est-à-dire de la parole. Moi, je te dis que tu es Pierre, et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, bon, je sais, nos amis les catholiques, là, vous dites, elle était bâtie sur Pierre, et Pierre, l'apôtre, donc, un tel, par l'approbation, la succession apostolique. Les protestants disent, elle était bâtie sur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour être différent, mais prenez simplement ce qu'il a dit. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé.
Et sur cette pierre, la révélation spirituelle de ce qu'est la parole. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne la feront jamais tomber.
Sa femme ne sera pas tentée par d'autres hommes. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne pourront jamais l'ébranler. De même, Abel et Caïn dans le jardin d'Éden. Caïn s'est fait une conception personnelle. Il a dit, « Bon, écoute, Dieu est un Dieu bon. Il est maître de toute la nature. Alors je vais aller chercher des haricots, des pommes de terre, et je vais aller chercher des fleurs, et je vais lui faire un autel très attrayant. » voilà l'Église. Il s'est agenouillé, il a cru Dieu, il a adoré Dieu, il a levé les mains et il a offert ce sacrifice. Il a fait tous les gestes religieux qu'Abel a fait. Abel a construit le même genre d'autel. Mais quand Abel a apporté le sien, il a apporté un agneau. Or, Caïn pensait que le sien serait un antidote au péché, que son père et sa mère avaient dû manger des fruits, comme il leur avait été enseigné dans ce jardin. Mais Abel, par une révélation divine, savait que c'était à cause du sang, par une révélation divine. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 12, au chapitre 11, qu'Abel, par la foi, par révélation, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste par Dieu. Pas vrai? Amen. Frères, sœurs, moi je trouve que ça ne peut pas être plus clair. Voilà, tout est là. Maintenant, quant au mariage et au divorce, vous voyez, il faut que ce soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne savez pas ce qu'il en est. Seulement, il a promis qu'en ces derniers jours, qu'en cet âge, tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés. Combien savent ça? Apocalypse, chapitre 10. Jésus l'a promis que tous ces mystères cachés au sujet du mariage et du divorce, que tous ces autres mystères cachés qu'il y a eu seraient révélés au temps de la fin. Maintenant, vous vous souvenez, la voix dit « Va, Tucson ». Vous souvenez-vous de la lumière mystique dans le ciel, du septième ange qui se trouvait là? Je suis revenu, et il y a eu l'ouverture des sept sceaux. Regardez bien ce qui s'est passé. C'est vrai. Maintenant, avançons encore juste un peu. Mais maintenant, écoutez. Je sais que c'est bientôt l'heure pour vous d'aller manger, mais moi, je mange très bien en ce moment. Remarquez. Bon, la femme a sa place, elle est un joyau. Salomon, cet homme qui a eu 10 000 femmes, ou plutôt qui a eu 1 000 femmes, il a dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Il a dit, une femme bonne est un joyau sur sa couronne. C'est un honneur. Mais une femme mauvaise, c'est de l'eau dans son sang. C'est sa vie. Il a dit, « Peut-être trouvera-t-on un homme juste entre 1 000 ?» C'est Salomon qui a dit ça. Mais il a dit, « On ne trouvera pas une femme juste entre 1 000 ?» C'est Salomon qui l'a dit, voyez-vous. Maintenant, remarquez là ce qu'il en est. Mais vous voyez, femme, vous êtes un joyau, si vous voulez être un joyau. Mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait, pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout le péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi, et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Pas vrai? Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet et que nous nous rencontrions, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité. Ça ne fait aucun doute. Une femme bonne, c'est quelque chose de bien. Ça, je le sais. Je le sais parce que je connais des vraies femmes. J'ai rencontré des vraies femmes qui sont des femmes véritables, qui sont aussi vraies que n'importe quel homme qui ait foulé cette terre. Elle est un produit dérivé et une partie de lui. Et au moment de la chute, il l'a écoutée. Il est simplement, elle est une partie de lui. Mais il n'en tient qu'à elle. Elle est faite de façon à pouvoir être impure. Mais il lui est donné le droit de refuser ou d'accepter. Ça, c'est le contraire de la nature originale, du commencement. Voyez? Mais voilà. Maintenant, il est midi. Alors je vais passer des points sous silence dans les prochaines minutes. Je voudrais vous demander quelque chose. Maintenant, souvenez-vous, je dis ceci uniquement à mon groupe à moi. Et ceux qui sont à l'écoute au loin, Je dis ceci uniquement à ceux qui me suivent. Ce message s'adresse uniquement à eux. Et ce que je vais dire ici, tout ministre de l'Évangile, il est le berger de son troupeau, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça, c'est entre lui et Dieu. Tout prêtre, tout prédicateur, c'est à vous de décider, mon frère. Je parle seulement ici, à Jeffersonville, le seul endroit où je dirai ceci, parce que c'est mon troupeau à moi. C'est de ce troupeau que le Saint-Esprit m'a donné la surveillance, et il va m'en rendre responsable. Et les gens qui me suivent ici, ce sont des gens qui viennent de partout dans le pays et qui se sont convertis, que j'ai conduits à Christ. Et petits-enfants, je suis ici pour vous aider et je suis votre ami. Vous allez peut-être penser que je parle contre vous. Si je dis ceci, voyez-vous, c'est pour votre bien. Je vous aime. Et si ce n'est pas vrai, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. C'est quelque chose de terriblement sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée, certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale. À cause de quoi? D'un faux enseignement. Exactement. On ne s'est pas attendu au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est la vôtre femme et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie, voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer, mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, il a dit, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint. Ou un prédicateur rétrograde, avec un paquet de credos dans un livre, qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Maintenant, je vais vous dire ceci. Je fais très attention à ce que je vous dis. Je ne veux pas être dur avec vous. Je ne veux pas être dur avec vous, mes frères pasteurs. Je ne veux pas ça. Mais je suis responsable, car je suis conscient que ceci a été remis entre mes mains. Et si je ne peux pas le garder, je ne sais pas comment m'y prendre pour le dire. Et je sais que cette bande va, oh là là, je n'ai qu'à me préparer, à ouvrir le bureau, parce que ça va venir, voyez. Exactement comme ce qui s'est passé pour la semence du serpent. Mais il était absolument prouvé que c'était juste. J'ai des coupures ici même de journaux, comme quoi des femmes, à l'heure actuelle, et même dans les grands, certains des grands diocèses ont des reproductions de la photo originale. Un serpent qui rampe sur la jambe d'une femme, et la façon dont il s'enroule autour d'elle, là, elle a toutes sortes de sensations et tout, quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer, avec cet énorme serpent qui s'enroule autour d'elle et tout. C'est l'exacte vérité, et ça ne fait qu'empirer, et ça va continuer d'empirer. Le serpent. Et il n'en était pas un. Il n'aurait pas pu avoir le rapport sexuel avec elle quand il était un serpent. Mais souvenez-vous, j'ai eu un débat l'autre jour avec c'était seulement un ministre des Assemblées de Dieu et un associé. Il disait, « Vous faites erreur là-dessus. » J'ai dit, « Eh bien, c'est possible. J'aimerais que vous m'en parliez. » Il a dit, alors il l'a fait, il s'est mis à m'en parler. Au bout de 2 secondes, il ne s'y retrouvait plus. Et une chose qu'il a dite, il a dit, « Frère Branham, où se trouve cette espèce ?» Dieu a dit, « Un de chaque espèce. » Alors, où se trouve cette espèce dont vous disiez qu'elle était entre l'homme et l'animal, que la science n'arrive pas à retrouver maintenant? Où se trouve cet animal? Il a dit, « Est-il sur la terre? Est-ce que c'était un chimpanzé ?» Non, parce que le sang du chimpanzé n'est pas compatible avec celui de la femme. Aucun autre animal n'est compatible avec elle. Non, pas du tout. Pas plus que le sperme d'un homme ne sera compatible avec la femelle. Ça ne marchera pas. Alors, où se trouve l'animal en question? Bon, Dieu a dit que tout produise selon son espèce. J'ai attendu un petit instant, et la douceur du Saint-Esprit a dit, « Dis-lui, il est ici. » D'abord, là, j'avais dit, « Eh bien, il peut être différent maintenant. » Il a dit, « Mais, frère Branham, là, nous parlons de la parole, n'est-ce pas? » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Et j'ai dit, bien entendu, ils disent que ces autres, comme les dinosaures et les mammouths, ils sont différents et tout. J'ai dit, peut-être que c'est ça. Il a dit, frère Branham, nous parlons d'une preuve par la parole. Si le péché est ici, alors le péché originel, il devrait être ici aussi. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand vous paraîtrez devant les hommes, parce que ce vous sera donné à l'heure même. Seigneur, que dois-je dire? Il a dit, dis-lui, il est ici, exactement de la même façon que les visions que j'ai sur l'estrade. J'ai dit, il est ici, sans savoir où. Il a dit, où? Et avant même que j'ai eu le temps de réfléchir, il a dit, c'est le serpent. C'était exactement ça. Car il n'est plus une bête. Il a été maudit et condamné à être sur son ventre pour le reste de ses jours. Il est ici. Pas vrai? Et encore aujourd'hui, à cause de cet acte-là qu'il a commis, ce même péché-là a toujours son influence sur la femme, avec le sexe mâle, comme ça par exemple. C'est pour ça qu'elle a les yeux tout chavirés et tout, quand elle a ces sensations qui dépassent de beaucoup ce qu'un homme pourrait lui procurer. Je m'arrête là, parce que nous sommes dans une assemblée mixte. Je vais réunir les hommes, nous en parlerons plus longuement. J'ai toutes les coupures et tout. J'ai ça ici même, à portée de la main en ce moment. Et je m'étais proposé de vous présenter ça ce matin. Je m'étais proposé de prendre toute la journée là-dessus, mais je vais dire ceci là en terminant. Ceci s'adresse uniquement à mon Église. Pas mon Église. Le petit troupeau qui croit en moi et qui me suit, ceci s'adresse à eux. L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque chose, ce doit être « ainsi dit le Seigneur ». Alors, j'avais les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés. Mais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations, des hommes seront assis sur leur galerie et dans la cour et partout. Dois-je la quitter? Les femmes, dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose m'a dit, va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Pendant que j'étais là-haut sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas, à Tucson, ils voyaient cela. Mais même les professeurs ont fait sortir les enfants de ma petite fille et les autres de leur classe. Et ils disaient, regardez là-bas sur la montagne. Il y a un nuage couleur d'ombre, comme du feu, qui monte dans les airs et redescend, qui monte dans les airs et redescend. Madame Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu ici? En revenant, je suis passé à la station-service. Ce jeune homme était au poste d'essence, le poste d'essence des Evans, là-bas. Je ne savais pas ce que ce garçon allait dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, « Frère Branham, vous étiez sur la montagne là-bas, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie ?» Non. Vous voyez, pour voir sa réaction. Bien des fois, quand il arrive des choses, on ne le dit pas aux gens. Ça devient... Ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant de choses arriver que ça devient quelque chose de banal pour vous. Vous voyez, je n'en parle tout simplement pas aux gens. J'ai dit, « Ronnie, qu'est-ce que tu... » Il a dit, « Je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez. » Il a dit, « J'ai appelé maman et on est resté là à observer ce nuage là-bas qui montait et descendait. » J'ai dit, « Ça ne peut être que Frère Branham qui est là-haut quelque part. C'est Dieu qui est en train de lui parler. » Et les gens de toute la ville l'ont regardé. C'était une journée claire. Il n'y avait aucun nuage nulle part. Et ce gros nuage couleur d'ambre qui était là, qui descendait comme un entonnoir et qui remontait en s'évasant. Mes amis, et après je termine, vous pourrez repartir avec ceci. C'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé. Ce que je vais vous dire à l'instant, alors ne le manquez pas. Maintenant, je parle uniquement à ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent et qui suivent ce message, uniquement, pas à ceux du dehors. Rendez mon témoignage devant Dieu. Ça s'adresse uniquement à ce groupe-ci. Maintenant, nous nous retrouvons dans ce fouillis à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai? C'est à cause de ça que vous, les femmes, vous vous êtes mariées la deuxième fois. Et vous, les hommes, à cause d'une théologie mal interprétée. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était ici sur terre, Jésus-Christ, et quand son prophète libérateur est venu, Moïse, en Égypte, pour faire sortir les enfants de l'Égypte, les emmener dans le pays promis, Et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là et qu'il leur avait permis la lettre de divorce parce que la situation était ce qu'elle était. Moïse s'est retrouvé comme ça. Alors, qu'il lui permette. Dieu a permis à Moïse, ce prophète qui avait été envoyé aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce. De même, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, les versets 12 et 15, c'est le prophète du Nouveau Testament, Paul, qui s'est retrouvé face à la même situation dans l'Église. Et qui a dit ceci, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Pas vrai? À cause du problème du divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse a reçu cette permission et Dieu l'a accepté comme si c'était juste. Paul aussi a eu ce droit quand il a trouvé l'Église dans cet état-là. Maintenant, croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de son nuage et de son message qui m'a amené jusqu'ici, est-ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer? Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Je parle uniquement à mon assemblée. Mais si vous êtes marié, et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne, que je pouvais dire ceci, c'est une révélation surnaturelle parce que les sept sceaux ont été ouverts et que c'est une question qui se pose dans la parole de Dieu. Laisse-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi et il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète, mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle, élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous si jamais vous recommencez. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes, partons maintenant à cette heure tardive du temps du soir où nous vivons et courons vers le but de la vocation céleste en Christ, là où toutes choses seront possibles. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors que nous prions, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te donnons la louange. Tu es le même grand Jéhovah qui a permis à Moïse. Moïse, ce serviteur, qu'est-ce qu'il allait dire à son peuple? Alors, ô Dieu, tu lui as permis d'accorder une lettre de divorce. Paul, le grand apôtre qui a écrit le Nouveau Testament, comme Moïse avait écrit l'Ancien. Moïse a écrit les lois et l'administration des lois. Il y a beaucoup de prophètes dont les paroles ont aussi été écrites là, mais Moïse a écrit les lois. Et tu lui as permis une lettre, de leur écrire une lettre de divorce, à cause de la dureté de leur cœur. Le grand saint Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, lui aussi, il a pu affirmer cela, que « Je parle en fonction des circonstances. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Il en est de même aujourd'hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde, alors que nous sommes ici et que la miséricorde de Dieu est avec nous. Nous savons que bientôt nous aurons des comptes à rendre dans sa présence. Et comme tu as fait tant de choses, Seigneur, devant ces gens, je suis sûr qu'ils vont s'accrocher à ceci comme si cela venait de toi. » Et pour rendre témoignage ici aujourd'hui, il y a beaucoup de gens assis ici et qui ont même vu ce signe là-haut sur la montagne. Là où les anges du Seigneur sont venus dans ce tourbillon, où les sept anges sont venus, où la révélation des sept mystères a été dévoilée. Et il y a eu ce même ange dans la même direction, sur la même montagne, le jour où ceci a été révélé. Ô Dieu, je prie que les gens rentrent chez eux en étant reconnaissants de ce que Dieu leur a accordé cette grâce. Si j'ai prononcé ceci, Seigneur, c'est uniquement avec ta permission. Et si je le dis, c'est uniquement avec ta permission, Seigneur. Que les gens en soient tellement reconnaissants qu'ils n'essaieront plus jamais de commettre ce péché-là et qu'ils n'essaient jamais de commettre aucun péché, mais qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Seigneur, rends ces familles heureuses et puissent-ils grandir et élever leurs enfants en les instruisant selon Dieu. En effet, mon message qui me tenait à cœur a été transmis, Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu et Satan m'a combattu pendant des semaines et des heures d'insomnie. Mais maintenant, j'ordonne, Seigneur, à ces gens d'examiner cela soigneusement et de repartir vivre pour toi. Accorde-le, Seigneur. Ce n'est plus sur mes épaules maintenant. Ils sont entre tes mains. Je te prie de les bénir. Bénis ces mouchoirs, Seigneur, qu'on vient de poser ici pour les malades et les affligés. Que ce soir soit une des plus glorieuses, des plus puissantes soirées, afin que tous soient guéris. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble. Puissions-nous aller en paix, heureux et dans la joie, parce que le Dieu de la création nous a montré ce qu'il en était au commencement et qu'il nous a accordé de nouveau. Dans le fouillis où nous nous trouvons, sa grâce en ces derniers jours. Ô Dieu grand et éternel, combien nous t'en remercions. Que nos cœurs soient tellement heureux que nous n'aurons plus jamais aucun désir de pécher contre toi. Au nom de Jésus, amen.
I love him. Why shouldn't you love him? I love him because he first loved me and purchased my son.
Je le dis maintenant pour que les frères dans le ministère comprennent. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Maintenant, levons-nous et levons les mains pendant que nous le chantons de nouveau. Je l'aime. Je l'aime à cause de sa grâce. Je l'aime à cause de sa miséricorde. Je l'aime à cause de sa parole. Et la parole du Seigneur est venue au prophète. Venez, frères.